qui aurait pu prédire la crise climatique ?
Le GIEC. Si vous souhaitez comprendre comment agir pour le climat, alors cet épisode avec Thomas Wagner, aka Bon Pote, va vous plaire.
Je savais qu'il y avait un problème avec le climat, mais je savais pas à quel point. Et là, je me suis dit, ah ouais, je pense qu'on est vraiment dans la merde.
À qui t'as envie de t'adresser avec Bon Pote ?
À tout le monde. On a la même planète, donc j'ai pas le choix, en fait.
Spécialiste des questions environnementales, Thomas vulgarise depuis plusieurs années le savoir scientifique à travers son média engagé, Bon Pote. L'avion, que je sois dedans ou pas, dans tous les cas, il va décoller.
C'est un sketch, ouais. En fait, j'ai plus envie de m'énerver, j'ai juste envie d'informer les gens et de leur dire, les gars, ça brûle, en fait. Il est possible qu'on atteigne 50 degrés à Paris. Ceux qui polluent plus, c'est ceux qui ont les moyens. En fait, c'est pas à moi de commencer, c'est à toi de commencer. On est mal. On est vraiment mal.
Comment démêler le vrai du faux de ce qui nous est partagé ? Comment lutter contre l'éco-anxiété ? Sur quel sujet doit-on agir en priorité pour avoir le plus d'impact ?
Je sais pourquoi je me lève le matin et c'est une chance incroyable. Bon, si ça marche pas, j'aurais essayé, mais je vais mettre toute mon énergie dedans.
Quelle a été la période la plus difficile de ta vie ?
Ça a été très dur. C'était épuisant. Mon corps a commencé vraiment à lâcher, donc il a fallu que je stoppe. Si t'arrives pas à trouver de soupape, tu pars très très vite en dépression. Et le meilleur remède contre l'éco-anxiété, c'est l'action.
Il ressemble à quoi ton monde idéal ?
Le pire, c'est qu'on a les solutions. Et on a l'argent en France. On n'a aucune excuse.
Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Thomas Wagner. L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes In Power, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute ! Bonjour Thomas.
Hello, bonjour Louise.
Bienvenue sur In Power.
Merci de me recevoir.
C'est drôle parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je sais pas si c'était juste après, mais je t'ai écrit, je t'ai dit bon, j'ai réfléchi et je suis prête à prendre le risque de te recevoir sur In Power.
C'est vrai, ce qui m'a surpris d'ailleurs.
Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que t'as répondu, c'est plus de moi qui prends un risque.
Oui, mais explique-moi pourquoi ça, c'est un risque.
Ouais, et après tu m'expliqueras. Écoute, moi, pour moi, c'était un risque. En fait, c'est vrai que je sais que ta communauté est très engagée, je sais que tu l'es aussi. Et sachant que j'ai moi-même déjà pris la parole sur des sujets écolos, notamment sur la mode responsable, et que depuis, je suis soumise à une forme de police que je trouve légitime. Hein. Vraiment, je le dis souvent à mon entourage, je dis les seules critiques qui me dérangent pas, c'est les personnes qui vont m'insulter parce que j'ai pris l'avion, parce que dans les faits, ils ont raison, la planète se meurt. Mais donc, je me suis dit, si la commu qui là peut-être est en train de nous écouter, qui vient de la part de Thomas, découvre que je ne suis absolument pas parfaite en termes de mon empreinte carbone, je risque de faire face à peut-être une vraie levée de bouclier. Mais je me suis dit, après coup, la cause est plus importante que ma personne, et donc si peut-être il y en a qui nous écoutent qui ne te connaissent pas encore et qu'ils ou elles vont pouvoir découvrir ou apprendre ou avoir une prise de conscience écologique encore plus forte, eh bien ça vaudra les quelques commentaires haineux que je risque d'avoir.
Oui, déjà les commentaires haineux ça sert pas à grand chose en général, ça fait rarement changer les gens. Je sais pas à quel point on va rentrer en détail là dans l'écologie, mais je crois pas que t'aies de crainte. À partir du moment, et tu l'es en plus, t'es transparente, et à partir du moment où tu dis que t'es pas parfaite, et en plus c'est extrêmement difficile d'être parfaite dans un système imparfait, à partir du moment où t'es transparente, moi, de mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de problème. Une personne qui dit « Ok, j'ai pris l'avion, je sais pas, je mange de la viande au petit-déj ou j'en sais rien », mais qui le dit et qui le cache pas, c'est déjà une première étape. Après, effectivement, le mettre en avant, quand on a, je crois qu'il y a plus de 600 000 personnes qui te suivent sur Instagram, ça devient problématique, mais après, tout est, il faut en discuter. Et typiquement, moi, Thomas Wagner, si je reste qu'avec des gens qui sont convaincus, qui sont pseudo-parfaits, le monde va brûler quand même parce qu'on n'aura pas discuté avec les autres, et c'est tout l'enjeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on échange. C'est pour ça que j'échange avec plein de personnes qui sont très différentes de moi, et politiquement, et voilà. C'est le but, quoi. C'est pareil pour le féminisme, c'est pareil pour les droits sociaux, les droits...
Et donc, ça m'intéresse, parce que je vois peut-être une forme d'incohérence dans ce que tu décris, mais si ce n'est pas le cas, éclaire-moi, c'est que tu apprécies la transparence. Donc, par exemple, comme j'ai ma soeur jumelle qui vient à New York, je lui rends visite une fois par an. C'est la seule fois où je prends l'avion, où j'essaye. D'un côté, pour toi, cette transparence est nécessaire. De l'autre, il ne faut pas en faire la promotion, donc je ne devrais pas le montrer, tu vois ? Pour toi, je ne devrais pas le dire forcément que j'y vais. C'est une vraie question que je me pose.
Ouais, en gros, la question de l'avion. Enfin, après, il faudra d'abord rappeler les ordres de grandeur.
Avant, tu vas te présenter de toute façon. Là, on digresse, mais après, tu vas te présenter.
Mais en fait, c'est une question éthique et personnelle. C'est pas interdit d'aller voir, et surtout la famille, c'est un sujet touchy. Il faudrait vraiment d'ailleurs que j'écrive un sujet exprès là-dessus, sur la et les petits amis aussi, ce qui est un sujet.
Ouais.
Mais en gros, la famille, ça devrait être une question à part. Et d'ailleurs, je pense à la députée Delphine Bateau, qui avait fait une proposition de quota d'avions et de nombre de vols que tu pouvais faire en avion par année, etc. Avec des exceptions, et la santé et la famille en faisaient partie, ce qui est absolument logique. Je trouve que c'est tout à fait logique. Après, une fois que aujourd'hui, une fois que tu sais pour les conséquences de l'avion sur le changement climatique, je pense que tu devrais y réfléchir à deux fois avant de déménager, typiquement à l'autre bout du monde. Si moi, là, je partais vivre à Melbourne, typiquement, il faudrait que j'acte avec moi-même, parce qu'il n'y a aucune interdiction, de me dire « je ne vais pas faire les allers-retours tous les 3 mois pour voir ma famille
mmh. ».
Mais c'est une question 100% personnelle. Donc, en fait, tant que la loi n'a pas évolué, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Moi, mon but, Thomas Wagner, et le média Bon Pote plus globalement, c'est d'informer les gens. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est sûr que si vous faites n'importe quoi, personnellement, je ne vais pas forcément être très content, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon but, c'est d'informer. Après, chacun...
Et si je te demande de te présenter sans me parler de ton travail, comment est-ce que tu te présentes ?
Waouh ! J'ai jamais entendu cette question. Je sais pas, quelqu'un qui aime rire de tout, de tous les sujets, et à peu près avec tout le monde. Ça, c'est peut-être une de mes caractéristiques. Et quelqu'un de curieux, en fait, qui va... Enfin, c'est ce que je fais via le travail, donc je vais essayer de pas en parler, mais... Je suis curieux de tout, en fait. Tous les sujets, et vraiment, et je peux... un truc que je ne connais pas, tu vas me parler d'un truc... absolument random. Tu vas me dire un mot, mais en fait, je vais rentrer, je vais commencer à regarder tout ce qui existe sur le sujet, etc., et creuser.
Obsessionnel, un peu.
C'est peut-être le mot.
Parce que ce terme sonne péjoratif, mais je trouve pas qu'il le soit forcément.
C'est peut-être, ouais, le mot geek, ou un peu... Okay. Voilà, c'est un peu ça.
Alors, Thomas, qu'est-ce qui fait que, déjà, avant de t'orienter dans cette voie qui est le combat pour la planète, tu aies choisi de t'engager dans un tout autre... je sais même pas si on peut l'appeler combat, mais en tout cas projet, à savoir rendre les autres plus riches.
Alors, tu fais référence à ma carrière en finance.
Ouais, je vais voir dans ta carrière en finance.
C'était pas exactement le cas. J'ai eu plusieurs métiers en finance. Le premier, c'était faire du conseil de dette, enfin voilà, sur les dettes étatiques. Donc en fait, je rendais pas forcément les autres plus riches. Je permettais à l'État français ou conseiller l'État ou les États de se financer. Donc c'était un petit peu différent.
Pas perdre trop d'argent, ok.
Yes, ou de payer le moins possible, on va dire. Et le dernier métier que là j'ai pratiqué les 3 dernières années, c'était de mettre des algorithmes en place pour surveiller l'activité des traders. En gros, éviter qu'il y ait des Jérôme Kerviel ou que les banques fassent n'importe quoi. Elles font n'importe quoi et elles continuent à faire n'importe quoi. Mais moi, c'était de limiter un peu la casse.
Okay.
Donc c'est ça le sujet. Donc j'étais pas vraiment en finance pour m'enrichir.
Donc t'as jamais eu ce rêve, mais tu vois qu'on peut avoir, hein, je pense qu'on est personne pour juger, de loup de Wall Street ou de « ah tiens, la finance, je vais... » Enfin, qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu, en fait,
si,
à la base ?
Si, si, je pense que c'est le principe de... C'est l'excitation un peu intellectuelle, la curiosité intellectuelle. Le fait d'acheter un truc pas très cher et de le revendre plus cher. J'ai fait une école de commerce, donc je sais pas, ça devait être... voilà. Je trouvais ça intéressant. Et c'était peut-être un petit peu par défaut. J'y suis resté, mais j'étais pas forcément à l'aise, en tout cas, ou aligné avec moi-même. J'ai quitté mon travail à plusieurs reprises. Et pour typiquement passer un an de ma vie à lire des livres au milieu d'une piscine ou au bord de la mer, etc. Je l'ai fait 3 fois quand même.
Ah ouais ?
Et oui.
Attends, ça m'intéresse. C'est-à-dire, la première question que je me pose par rapport à ça, c'est comment tu peux passer d'une année où t'es surstimulé intellectuellement et ton épanouissement passe par là, à un an où tu ne produis rien, où tu n'es pas utile, et où tout ce que tu fais, finalement, c'est prendre du bon temps.
Alors, mon épanouissement, pardon, passait pas forcément par le travail.
D'accord.
En partie avec les collègues qui étaient sympas, et parce que je passais du bon temps avec eux, etc. Mais mon épanouissement, déjà à l'époque, tu m'aurais croisé en soirée, je parle jamais de finance, en fait. Puisqu'en plus, le métier est hyper mal vu. Petite anecdote, maintenant que je fais de l'information, j'ai appris par une journaliste qui m'a dit les deux métiers que les gens détestent le plus, c'est les financiers et les journalistes. Donc en gros, je suis en train de faire une sorte de bingo de ce que les gens détestent. Peut-être que je finirai par faire de la politique pour vraiment toucher le fond.
Ah ouais.
Mais en gros, ouais, l'épanouissement passait par autre chose. J'aime la littérature. Enfin, je peux parler des heures de ça, parler des heures de musique, de voyage. Donc voilà, vraiment tous les sujets. J'évitais vraiment en général de parler de finance parce que ça n'intéresse pas forcément les gens. Et en plus, les gens ont et ils ont plutôt raison d'ailleurs en général, n'aiment pas trop les financiers. Donc voilà, j'en parlais très peu. L'épanouissement est vraiment passé par d'autres choses. Et typiquement, enfin à chaque fois, c'est parce que je me sentais pas forcément à l'aise dans mon métier que je quittais et que j'y revenais parce que c'était la facilité, parce que je gagnais des sous assez et j'avais une vie confortable.
Mais t'avais une vie qui te permettait quand même de partir un an lire.
Oui.
Sans travailler.
Oui. Alors, je payais pas le loyer, mais oui, effectivement, il faut 1000 ou 2000 euros pour vivre, manger, etc. Ouais. Quand t'es à Paris, j'avais des sous de côté. Et voilà. Et j'en veux. À chaque fois, j'allais proche du zéro. Et à un moment, je me disais, bon, il faut reprendre le travail. Et je reprenais le travail, tout simplement. Et je l'ai fait trois fois, donc, jusqu'à 2020. J'ai fondé Bon Pote en fin 2018. J'ai écrit un an et demi, mais vraiment, je travaillais la journée en finance et j'écrivais le soir et week-end. C'était épuisant. Enfin, j'étais dans un état de fatigue vraiment avancé.
T'avais une vie sociale ?
Alors, quand même. Un peu de sport et un peu de, voilà, d'autres choses. Mais c'est, bon, ça devenait un peu difficile. Et en fait, en 2020, juin 2020, mon corps a commencé vraiment à lâcher. Donc, il a fallu que je stoppe. J'ai stoppé un mois, puis deux mois. Et en fait, au moment du retour, c'était plus du tout possible. Je voulais mettre toute mon énergie dans Mon Pote. Et je voulais plus du tout retourner en finance. Enfin, j'avais, voilà. Mais déjà, j'emmerdais mes collègues et je leur parlais de climat. Je leur disais, bon, ça brûle, là. Peut-être qu'il faut faire autre chose. Et, mais j'ai un peu toujours été comme ça. Là, j'ai vraiment... Et je me suis dit d'ailleurs, au lancement de Bon Pote, parce que je gagnais pas ma vie à l'époque, je me suis dit, je vais essayer de faire ça pendant un an. J'avais des sous de côté pendant un an et je me suis dit, bon, si ça marche pas, j'aurais essayé, mais je vais mettre toute mon énergie dedans. Et c'est ce que j'ai fait entre 2020 et 2021. Et j'ai commencé à pouvoir vivre de Bon Pote en 2021.
Comment est-ce que ta prise de conscience écologique a commencé ?
Ça a été progressif, je crois. Et souvent, j'adore cette question parce que j'écoute souvent d'où ça vient chez les gens. Et on voit bien que c'est pas... Alors, ça arrive que ce soit un film, un podcast, etc.
Oui, un truc qui nous a touchés.
Ça arrive. Mais c'est souvent progressif. Et moi, ça a été progressif. Alors, c'est des sujets de géopolitique qui m'intéressent. Typiquement, les matières premières, ça m'intéresse depuis très longtemps. Le pétrole, typiquement. J'ai fait mon mémoire dessus. Donc, c'est des sujets qui m'intéressaient depuis très longtemps. Mais je n'avais pas la dimension. Je savais qu'il y avait un problème avec le climat, mais je ne savais pas à quel point. Et d'ailleurs, c'est le cas, je pense, d'une majorité de Français aujourd'hui ils entendent et ils savent qu'il y a un problème. Ils voient bien qu'il y a des étés de plus en plus chauds ou de plus en plus fréquemment, etc. Mais ils ne savent pas à quel point il y a un problème. Et ça, je ne le savais pas. Et vraiment, tout bêtement, c'est un collègue un soir qui me dit « Tiens, tu devrais regarder ce reportage, etc. » Et j'ai commencé à regarder un, deux, trois, puis quelques lectures. Et là, je me suis dit « Ah ouais, je pense qu'on est vraiment dans la merde. » Et j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens sont très chill et ils sont pas très au courant. Et je me suis dit, ok, il faut que je mette un peu plus mes efforts là-dedans. Alors, Bon Pote, au début, j'écrivais un peu des articles sur tous les sujets. Et j'ai commencé à axer vraiment sur le climat, la biodiversité, etc. Mi-2019, en partant du principe qu'on n'en parlait pas assez et parfois on en parlait mal. Ça continue. Il y a certaines presses conservatrices plutôt qui en parlent très mal. Les articles climato-sceptiques purs pour dire le changement climatique, c'est naturel, etc., commencent à disparaître un petit peu de la circulation. Mais il y a toujours beaucoup de désinformations sur le sujet, y compris des politiques de gauche comme de droite, un peu plus de droite, et y compris du gouvernement, en fait. Donc là, mon job, c'est d'analyser ça. Enfin, on va peut-être plus en parler en détail, mais d'analyser ça, de rectifier dans la mesure du possible et d'expliquer pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, etc.
Comment toi-même tu parviens à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux ? Parce qu'on pourrait te dire, mais tu n'es pas scientifique, oui, tu n'as pas fait d'études là-dedans.
C'est une très bonne remarque. En gros, c'est le temps que j'y passe et de sourcer tous les articles de Mon Pote, quand ce n'est pas rédigé par moi, parce qu'il y a des scientifiques qui écrivent pour Mon Pote maintenant, tout est sourcé. Donc tous les chiffres, vous avez, enfin dans la mesure du possible, il y a toujours une source. Donc en fait, toute personne est capable de lire l'article et de pouvoir critiquer, que ce soit constructif ou pas d'ailleurs. Mais c'est là-dessus qu'on est jugé, je pense. Moi, quand je regarde un travail autre que le mien, je regarde tout de suite s'il y a les sources, en fait. Et quelle est la source ? Et on voit après le poids de la preuve. Typiquement, si une personne me dit la source est le GIEC, voilà, qui fait un consensus de la littérature scientifique sur le climat, ça a plus de poids que Jean-Michel Cycle Solaire qui fait un commentaire sur Facebook et qui va me dire le changement climatique n'existe pas. Bon, lui, je vais lui dire, ah bon, mais c'est quoi votre source, tu vois ? Donc là, il faut apprendre ça aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas... En tout cas, moi, en école de commerce, à l'époque, ça a peut-être changé aujourd'hui, je serais curieux de le savoir, mais j'avais pas cette culture, j'ai pas eu cette culture scientifique, etc. Je l'ai appris un peu sur le tas. Et pour m'assurer que je dis pas de bêtises, aussi, je fais relire mes articles par des scientifiques. C'est leur job. Et par sujet. Donc, l'Amazonie, j'ai une personne. Sur l'Antarctique, ou je sais pas, les glaciers, j'ai une personne. Suivant les sujets, le sport, j'ai une personne. Sur l'art, etc., le sport aussi. Enfin, tu vois, j'essaye vraiment de baquer au maximum ce que j'écris. Et le truc le plus important, parce que ça m'est arrivé, j'ai quelques exemples en tête, mais une ou deux fois, d'écrire une erreur dans l'article, pour moi, et ce que j'aimerais le voir partout d'ailleurs, c'est de la corriger et de l'annoncer, en fait, et de le mettre très clairement et de dire, OK, il y avait une erreur ici. Donc ça veut dire enfin éviter de tromper les gens. Si je dis une bêtise sur Twitter ou en story sur Instagram, l'effacer et expliquer pourquoi c'était faux, etc. Donc ça, ça me paraît hyper important. Dans mon monde idéal, tout le monde ferait ça. Bon, là on est dans un monde où CNews raconte n'importe quoi, puis après toute la presse commence à le reprendre, etc. C'est on est plus dans ce monde-là, mais bon, c'est comme ça. Après, il faut pouvoir se regarder dans la glace. Moi, mon job est, je crois, à peu près correct, donc j'essaye de continuer à faire ça. Ouais.
Qu'est-ce que tu n'as pas appris pendant tes études que tu aurais aimé apprendre?
Je pense qu'on avait, en tout cas en école de commerce et par mes études, j'ai été beaucoup dans la compétition et à vouloir être le premier ou etc. Et je pense qu'on n'a pas assez appris à collaborer, en tout cas dans mes études. Et c'est très drôle parce que j'ai grandi comme ça et puis la finance c'est très comme ça, essayer d'être le meilleur, etc. etc. Et aujourd'hui, avec le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, je dois totalement changer mon logiciel et je dois faire avec tout le monde. Donc même une personne avec qui je ne suis pas d'accord en face de moi, je suis obligé de discuter avec parce qu'on respire le même air. Et si lui, il fait des conneries et qu'il allume son chauffage à 150 000 et il est sur son SUV en train de faire des tours et prendre son jet privé, on a la même planète, donc j'ai pas le choix, en fait. Donc je dois être beaucoup plus dans la collaboration. Donc ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Ça prend du temps, mais ça s'apprend.
À qui t'as envie de t'adresser avec Bon Pote ?
À tout le monde.
À tout le monde ?
À tout le monde.
Est-ce que tu prends... Enfin, est-ce que tu te dis, il faut que j'aille... convaincre des personnes qui sont pas du tout sensibilisées au réchauffement climatique et à l'état de la planète, ou est-ce que tu as envie de t'adresser aux personnes qui, elles, connaissent et sont engagées, mais peut-être sont victimes, en effet, de la désinformation ou juste de la surconsommation de contenu des réseaux sociaux?
Ouais, non, vraiment tout le monde, sans exagérer, tous les Français, de gauche comme de droite, d'extrême droite, vraiment tout le monde, et d'ailleurs les francophones, parce qu'il y a des lectrices et lecteurs belges, suisses, je sais que voilà, au Canada, qui me font des retours parfois assez passionnants. C'est intéressant d'avoir d'autres cultures. Mais vraiment tout le monde, c'est pour ça que Bon Pote est en accès libre. Et j'ai la chance, en tout cas, que le média puisse être soutenu par les lectrices et lecteurs via des dons et de laisser le contenu en accès libre. Je respecte évidemment la presse qui ne laisse pas leur papier en accès libre, mais... j'adore, en fait, je trouve que c'est une chance incroyable. Et mon but, c'est qu'une personne, et peu importe l'âge, de rendre ça accessible, et surtout que peu importe ton âge et ton niveau, tu puisses progresser. Il y a plus de 300 articles aujourd'hui. Donc vraiment, si tu n'y connais rien, tu peux aller sur Bon Pote. On a fait aujourd'hui en plus des parcours thématiques pour commencer de zéro. Tu finis la lecture des 200 ou 300 articles, tu commences à bien connaître le sujet et voilà. Et vraiment, c'est mon but. C'est mon but. On n'aurait pas les mêmes sujets de discussion. On n'aurait pas les mêmes débats à la télé si les gens avaient au moins les bases sur le climat et sur ce qui se passe vraiment là. Parce que j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression. Je le vois que le sentiment d'urgence n'est pas réel. On sait qu'il y a un problème et encore une fois, on ne sait pas à quel point il y a un problème. Et quand tu mets vraiment le nez dedans, il y a un vrai switch. Il y a un vrai switch. Et enfin, moi, ça m'a changé ma vie, vraiment. Et je pense que. Et ça a changé la vie d'ailleurs de millions de personnes. Ça va changer la vie de millions de personnes. Voilà. Et il y a plein de choses. Enfin, ce qui est passionnant avec ce sujet-là, c'est que ça touche toutes les relations. Les relations au travail, je suis en train d'écrire là-dessus. Les relations au travail, les relations amicales et les relations amoureuses.
T'écris un livre sur comment ta prise de conscience écologique a changé tes relations de manière générale.
C'est un article.
Ah, c'est un article.
Mais c'est vrai que ça pourrait tenir dans un livre pour le coup, parce qu'en fait, tu peux partir sur tous les sujets. Au travail, la dissonance, les gens qui sont en dissonance, qui travaillent chez Airbus, qui travaillent chez Total, qui m'écrivent et qui voudraient changer, soit de l'intérieur, soit sortir et faire autrement. Les relations entre amis, il y a un bon exemple, c'est de te dire, imaginons que vous soyez 7 ou 8, il y en a 7 qui décident de partir loin, d'aller soit à New York, à Bali, ou je sais pas, je donne un exemple au hasard. Toi, t'es le seul pseudo-écolo dans le groupe. Et tu dis, bah non, en fait, moi, je veux plus prendre l'avion. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes tout seul ou tu y vas quand même et tu mets de côté tes convictions? Donc ça, c'est le coût social et c'est pas si facile, en fait. C'est chiant quand t'es le seul à t'embarquer là-dedans. Et il y a ensuite les relations amoureuses. J'ai plein de personnes qui m'écrivent. Ça me concerne plus ou moins, mais il y a des gens qui vraiment, leur conjoint ou enfin leur femme, etc., ne sont pas écolos. Et s'il y a un vrai problème au sein du couple de dire, en fait...
On partage
pas les mêmes valeurs. Il y a un vrai switch. Et soit la personne peut suivre ou évoluer, ce que j'espère, soit elle peut pas. Et en général, c'est gros problème.
Ouais.
Donc voilà. Et je reçois beaucoup de messages privés. Et je trouve ça passionnant parce que c'est des relations humaines aussi. Ça va toucher toutes les relations. Donc voilà, je suis en train de finaliser et d'écrire dessus.
Tu dis que ça avait vraiment... bouleverser ta vie. Comment est-ce que ça a concrètement changé ton quotidien?
Alors le premier pas, je pense, c'est que j'ai arrêté de manger de la viande. tu m'aurais croisé en 2019, j'aurais été à un café en train de manger un double burger. J'adorais ça. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire individuellement pour baisser mon empreinte carbone, la viande était le plus évident et le plus simple. C'est enfin, voilà, de dire tu prends un autre plat. Ça, ça a été la première étape. Ça me manque pas trop, ça fait 5 ans maintenant, ça me manque pas trop. De temps en temps quand même, quand t'as un odeur de steak qui passe, c'est un peu difficile, mais ça va. Et je pense que le plus structurant, parce que j'avais une vie qui me permettait de prendre l'avion, donc c'est pas le cas, hein, c'est une minorité de Français qui prennent l'avion par an, mais j'ai des amis un peu partout dans le monde. Typiquement, mon meilleur ami, mon meilleur ami qui vit à Miami, je le vois beaucoup moins, et on s'appelle, etc., mais je le vois beaucoup moins, et il sait pourquoi, c'est 100% pour raison écologique. Et là, il y a son mariage le 3 août, et je lui ai dit que je n'irai pas.
Ah ouais.
Donc je ne sais pas si soit je fais une entorse, soit je vais prendre un bateau. Donc j'ai commencé à regarder pour prendre un bateau, mais c'est 2 semaines. Enfin, c'est un peu un enfer.
Ah ouais.
Donc je vais voir. Mais c'est son mariage. Bon, après c'est son 3e, donc...
Attends, il a quel âge?
J'espère que ce sera le bon. Il a 36 ans.
D'accord.
37, pardon.
Jamais 203.
Jamais 203. Ou la 3e, c'est la bonne.
Mais tu vois, ça, pour parler un peu de l'avion, qui est évidemment un énorme sujet, et après on reviendra un peu sur toi, les changements que tu as mis en place. Tu vois, moi, avant, quand on a organisé ce podcast, je me suis dit, bon, je vais quand même demander à des personnes qui sont vraiment pas du tout engagées, quels sont leurs arguments et quel est leur raisonnement, parce que bah, du coup, je le partage plus, vu que moi, je le suis un peu, et toi, tu l'es beaucoup. Et tu vois, pour l'avion, il y avait un argument qui revenait beaucoup, qui était, ouais, enfin bon, l'avion, que je sois dedans ou pas, dans tous les cas, il va décoller.
Okay.
Et je me suis dit, putain, je sais pas quoi leur répondre. Donc je vais demander à Thomas.
Oui, bon, ça c'est en fait, j'ai tellement entendu ce truc que j'ai fini par rajouter un paragraphe. J'ai un article sur l'avion,
ouais.
Et j'ai fini par rajouter un paragraphe. Mais en fait, économiquement, c'est pas viable ce truc. Parce que si tout le monde se disait ça, les compagnies, il faut bien qu'elles aient. Il y a un seuil de rentabilité. Si t'as 2 personnes par avion. On peut faire le test pendant 6 mois ou 1 an, l'avion va décoller, mais la compagnie va faire faillite dans l'année, en gros. Mmh. Donc cet argument, il est bidon. Et je pourrais te sortir un best-of de toutes les excuses. Les gens, oui, mais bon, le train... Alors, pardon.
Le train est trop cher.
Il y a beaucoup d'excuses. Il y a beaucoup d'excuses qui sont nulles. L'excuse du train et que le train soit trop cher, ça, c'est structurellement vrai. Et d'ailleurs, et moi, je me bats politiquement pour que ça évolue, parce que typiquement, l'avion n'est pas taxé, le kérosène n'est pas taxé, et le train, effectivement, est trop cher. Enfin, j'ai fait des simulations. Là, je reviens des îles Lofoten pour aller voir des aurores boréales. J'ai pas encore regardé combien ça coûtait en avion, mais je vais faire le comparatif. Et enfin, effectivement, en fait, si ça coûte 3 fois plus cher de prendre le train, ça prend 3 fois plus longtemps.
Avantage à part ta conscience écologique. Non,
mais voilà, je peux pas en vouloir aux gens qui vont me dire bon bah j'ai pris l'avion parce que j'avais pas le choix. Ça, j'entends totalement et j'espère que ça va changer. Enfin, je passe mes journées à essayer que ça change. Mais voilà, mais en général et sauf les cas de famille etc. L'avion, enfin, il faut faire autrement. Il faut juste se dire on va passer des vacances autrement etc. Et là, je viens de le faire. Je cherche encore le mot français pour exprimer ce que j'ai ressenti. Le voyage que je viens de faire là en train, au lieu de faire 5 ou 6 heures d'avion, je pense, et les 60 heures que je viens de faire en train, une fois que je suis arrivé là-haut, là, au cercle polaire pour voir des aurores boréales, je pense que ça a décuplé le plaisir que j'ai eu de voir les aurores. Je ne sais pas, il doit y avoir un terme, et on m'a dit, il y a peut-être un terme en finlandais ou en japonais, donc peut-être qu'on trouvera une personne pour y répondre. Mais c'est le slow travel et... Enfin bref, ça m'a voilà, je suis encore ému de ce voyage et je pense que il faut retrouver ça.
Qu'est-ce qui t'a ému dans cette longueur?
Alors apparemment ça procure ça, donc il faut que j'aille me renseigner.
D'accord.
Je vais pas en
phénomène
parler.
Phénomène physiologique. Bah, après si c'est un peu plus t'attends, plus tu savoures quoi. Je pense que
il y a un peu de ça et c'est
aussi.
Un peu il y a eu des comparaisons avec typiquement t'es en trek, t'es en train de monter la montagne, soit on t'y dépose en hélico. Soit tu viens de te taper 5 heures de marche et d'effort physique et tu arrives enfin en haut et tu vois un coucher de soleil. Et je pense que ça, tu vois, ça décuple le plaisir de voir le coucher de soleil. Je ne connais pas le mot. J'adorerais pouvoir te sortir un mot et faire du storytelling dessus. Mais je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais c'est ce que j'ai ressenti.
Ok. Qu'est-ce qui a motivé ce voyage ?
Les aurores boréales, moi, ça me faisait rêver. Ça fait 5 ans, et en plus, ça fait 5 ans qu'il y avait soit le boulot, soit le Covid qui m'a empêché d'y aller, etc. Et là, tout s'est goupillé pour y aller, et j'y suis allé avec 2 personnes que j'adore et que j'admire. Donc, je rentre du voyage, je viens à l'instant de rentrer, je suis encore dans les nuages, là.
Ça a pris combien de temps du début à la fin, le voyage?
C'est trois jours de voyage.
Ok. Vous êtes parti de Paris.
On est parti de Paris. On a fait Cologne, Hambourg, Copenhague, Malmö, Stockholm. Stockholm, Abisko et Kiruna, où tu es allé aussi pour voir des aurores.
Sauf que j'en ai pas vu.
Voilà.
J'aurais dû prendre le train.
Bah ça, c'est la beauté. C'est pas pour toi. Mais c'est la beauté de la chose. Je trouve ça bien de payer un voyage et de ne pas être sûr d'avoir les aurores au bout. Là non plus, j'ai pas le terme. Mais je trouve ça beau, tu vois, c'est un peu un anti-Deliveroo, quoi.
Ouais, de l'incertitude de la vie, quoi.
Yes, donc je trouve ça très bien. Bon, moi, j'ai eu la chance d'en voir et d'en voir plein, et c'est incroyable. Mais voilà, qu'est-ce qui a motivé ce voyage? Ouais, c'est l'envie de voir les aurores, de voyager en train, de montrer aussi que c'est possible.
Ouais.
Je ne me rendais pas compte, mais quand j'ai fait une story pour dire, bon... je vais un peu moins être présent sur les réseaux les prochains jours parce que je pars voir les aurores boréales. J'ai rarement reçu autant de messages privés pour me dire « Mais attends, c'est quoi le trajet ? Ça coûte combien ? T'y vas comment ? Tu fais comment ? » etc. Donc là, je suis en train de rédiger l'article pour résumer tout ça. Mais il y a un vrai intérêt pour le voyage et pour le voyage autrement et montrer qu'on peut faire autrement. Et je te dis ça, mais je sais que tu le sais parce que tu l'as fait. Tu l'as fait l'été dernier, si j'ai bonne mémoire.
Oui.
Et enfin, c'est le genre de choses que j'ai envie de mettre en avant, en fait. On n'est pas obligé de faire des allers-retours à Dubaï le week-end pour être heureux. Donc,
Ouais. En fait, c'est une question qu'on se posait avec ma team en préparant l'entretien. C'est, en fait, ce qui est dur, je pense, psychologiquement pour beaucoup de gens, c'est le côté retour en arrière.
Mm-hmm.
C'est qu'en fait, à partir du moment où on nous a octroyé le droit de voyager à travers le monde... et de prendre l'avion, et comme tu l'as dit, encore une fois, c'est pour une minorité de personnes hein, qui peuvent se l'offrir. Mais pour les personnes qui peuvent se l'offrir, en fait, savoir que ça existe, que c'est là, mais y refuser, en fait, enfin, le refuser, c'est comme avoir des bonbons en face de toi et ne jamais les manger, tu vois. Ça demande ou une force de conviction immense, ouais. Ou ne pas avoir envie de le faire, je sais pas, tu vois, ne avoir peur de l'avion, il y en a qui ont peur de l'avion, mais juste, c'est vrai que je pense que normalement, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers le progrès. Et donc, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est difficile à entendre de se dire, en fait, on est dans une forme de régression où
ouais.
on peut plus prendre l'avion, on doit plus manger de viande, on doit essayer de consommer moins, tu vois, mm-hmm. et qu'il y a un côté de privation.
Je vais répondre en deux temps à cette remarque. La première, c'est qu'il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Évidemment, on se dit, l'avion, c'est normal. Mais en fait, penser que c'est normal, c'est déjà qu'on est biaisé parce qu'il y a 80% de la planète qui n'a jamais pris l'avion. En fait, il faut avoir ça en ordre de grandeur. Il y a chaque année, il n'y a que 30% des Français qui prennent l'avion. Et en gros, pour parler émissions de CO2, c'est 1% des habitants de la planète qui font 50% des émissions du trafic aérien. Donc ça veut dire qu'il y a une toute petite minorité en fait, qui prend l'avion beaucoup de fois. Et la logique à ça, c'est que tous les habitants de la planète qui ne prennent pas l'avion mangent pour eux, en fait, d'une petite minorité. Donc il faut déjà avoir ces ordres de grandeur en tête. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est les conséquences de prendre l'avion. Il n'y aurait pas de conséquences. Je serais à Miami, hein, je serais au bord de la plage sans aucune hésitation. Mais il faut avoir en tête les conséquences que le changement climatique va avoir. Ça bouleverse déjà nos vies. Il y a déjà des centaines de milliers de morts du changement climatique. C'est pas en futur. Hein. Je prends l'été 2022 en France, il y a eu environ 10 000 morts des canicules. Ça n'a pas fait les gros titres dans la presse, mais je peux t'assurer que s'il y avait, 50 crashs d'avions, je ne sais pas si c'est l'équivalent, faudrait voir, mais c'est à peu près ça. Je pense qu'on en aurait entendu un peu plus parler. Donc il y a déjà des conséquences qui sont terribles. Il y a déjà des inondations dans le nord, etc. Dans le sud, ça crame. L'Espagne est en train de devenir, la moitié du pays est en train de devenir un désert. On voit bien ce qui se passe en Méditerranée chaque été. Je repense à des stories que j'ai vues passer sur Instagram cet été de personnes qui se plaignaient de ne pas pouvoir prendre l'avion parce que pour rejoindre leur hôtel en Grèce. Mais en fait, en Grèce, c'était en train de brûler. Et ça brûlait plus que d'habitude à cause du changement climatique. Et moi, j'étais là, mais... Non mais c'est un sketch. Et j'ai eu une personne dans mes amis proches qui m'a dit putain Tom, je peux pas rejoindre mon hôtel en Grèce, etc. Enfin, j'ai rien dit. J'ai juste envoyé un article sur augmentation des feux, du changement climatique, etc. Ça va, on se parle encore. Mais en fait, j'ai plus envie de m'énerver. J'ai juste envie d'informer les gens et de leur dire les gars, ça brûle en fait. Et ça brûle parce qu'on consomme trop et il faut changer. Tu informes et si vous ne voulez pas changer, acceptez les conséquences. Mais bon, moi, ça me plaît pas trop parce qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé. Et comme le CO2 n'a pas de frontières, si toi, en France, tu multiplies les bêtises et la surconsommation, t'as des personnes qui, à l'autre bout du monde, vont manger, en fait. Bon, c'est la justice climatique, c'est le principe de... donc voilà.
C'est un argument auquel, parfois, on m'oppose. Oui, mais même si tous les Français étaient irréprochables, ne prenaient plus l'avion, ne mangeaient plus de viande, en fait, les Chinois ou les Américains ruineraient tout.
Yes, alors ça c'est un grand grand classique, la France c'est que 1% des émissions, il y a un article sur Bon Pote exprès sur ce sujet-là. Alors ça peut potentiellement être vrai que la France représente 1% des émissions, mais en fait il faut prendre le changement climatique, c'est l'accumulation des émissions historiques, et en fait en historique on est plutôt 10 à 12e plus grand émetteur au monde. Donc déjà il faut replacer les choses dans leur contexte. Si on prend les émissions importées, donc ce qu'on fait construire ailleurs et qu'on consomme sur le territoire français, type de Chine ou d'autres pays, ça fait quasiment x2, donc c'est pareil. Ça augmente, donc encore une fois, l'empreinte de la France et donc par français est plus grande. Et en fait, le truc à retenir de ce truc, c'est que si chaque pays qui représente 1% des émissions se montre du doigt et dit « en fait, c'est pas à moi de commencer, c'est à toi de commencer », on est mal, on est vraiment mal. Donc c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Et pour finir, on a plein d'intérêt, nous, notre pays, à changer. Il y a plein de co-bénéfices, donc ça c'est pas Thomas Wagner qui le dit, c'est les rapports du GIEC, hein, donc c'est la littérature scientifique, qui dit qu'on a plein de co-bénéfices à changer. En France, typiquement, ce serait quoi les changements ? Mini changement, ce serait passer des voitures thermiques aux voitures électriques, enfin toute la pollution de l'air et les émissions de CO2, tout ça c'est des co-bénéfices. Il faut réduire le nombre de voitures, mais ça ce serait un bénéfice à avoir. Avoir plus de transports en commun, imagine. Enfin, moi j'adorerais passer dans toutes les villes. À Paris, on est très chanceux là-dessus, mais il faudrait qu'il y ait plus de transports en commun dans toutes les villes. Les gens pourraient avoir la liberté, parce qu'on dit que la voiture c'est la liberté, mais c'est une prison en fait. Tu es dépendant de ta voiture en permanence. Je vis dans le sud une partie de l'année. Bon, je vais faire un peu d'autodérision. Je n'ai pas le permis, donc je
moi
sais.
Non plus.
Bon, écoute, oui, mais moi je suis plus âgé, donc c'est un peu chiant. J'ai moins d'excuses. Dans le sud, quand tu n'as pas de voiture, c'est.
Je peux rien faire.
Ah, c'est difficile. C'est difficile. Donc, je comprends ce sentiment, surtout quand on dit aux gens il faut moins prendre votre voiture et qu'ils finissent par t'insulter sur les réseaux. Mais moi, mon but, c'est qu'il y ait plus de transports en commun et que tout le monde puisse se balader et pas être dépendant de la voiture.
Donc ça, c'est... Non, mais en fait, j'adore parce que t'as vraiment réponse. On sent que t'as réfléchi à chaque question. Est-ce qu'il y a une question à laquelle t'as pas encore la réponse ?
Alors,
où on t'écrit par DM et tu fais genre t'as pas vu parce que tu sais pas quoi répondre.
Ah, j'adore quand on me pose des calls. En fait, j'ai la curiosité intellectuelle d'aller chercher directement la réponse ou de demander à des experts ou expertes. Mais il y a des remarques qui reviennent tellement souvent que je deviens une sorte de machine. Je dis, ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça.
T'as même fait un générateur, j'ai vu sur Bon Pote.
J'allais en parler. On a fait un truc qui s'appelle le dîner du siècle. Donc, on a imaginé des personnages à table, une sorte de dîner de famille de Noël, avec une personne qui a un peu réponse à tout. Et il y a Catherine de France, donc ça, c'est la tante climato-sceptique. Il y a le petit cousin fan d'Elon Musk. Il y a la cousine qui est en dépression à cause du climat, etc. Et donc, on a fait un peu tous les personnages et tout ce que je reçois un peu en message privé. Et on a apporté à chaque fois, chaque argument, il y a une réponse et un article pour backer. Donc voilà, et ça a bien marché. C'est encore très utile, donc je suis hyper content pour ça.
Tout ce que tu nous partages là, et les articles, les contenus, ce sont des contenus, tu le disais, qui sont gratuits. Comment est-ce que tu gagnes ta vie, toi, aujourd'hui ?
100% par les dons des lectrices et lecteurs de Bon Pote. Donc c'est aussi simple que ça, en page d'accueil, ils peuvent soutenir. On a fait une campagne de dons là en fin d'année qui a extrêmement bien marché, donc c'est trop bien parce que il y a une graphiste maintenant qui travaille avec Bon Pote en freelance et une personne pour le site. Et donc je vais pouvoir les payer. En fait, on a des projets, on a plein de conneries en tête que j'aimerais, comme le dîner du siècle, et on a plein de choses à faire. Et je vais pouvoir les rémunérer, donc c'est trop bien quoi. Moi je vais caper mon salaire et tout le reste va partir pour les projets. Et peut-être, je réfléchis encore à la tournure que va prendre Bon Pote, mais peut-être avoir une journaliste ou un journaliste, voilà. Mais qui traite les choses comme je le fais, c'est-à-dire prendre le temps, parce qu'il faut du temps en fait. Je pourrais faire de la dépêche AFP, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère creuser un sujet, y passer une semaine, voire un mois, comprendre les tenants et aboutissants, les limites, etc. Et après, rendre ça accessible, c'est ce que je fais avec Bon Pote en fait. Tu prends n'importe quel sujet, il y a entre 5 et 10 minutes de lecture. Et voilà, normalement, tu deviens... Enfin, t'as un peu plus les idées claires sur le sujet une fois que t'as lu l'article. Je sais qu'aujourd'hui, le papier, c'est pas non plus le truc le plus excitant. Si j'étais un peu malin, je me mettrais à la vidéo. Oui, non, j'aime les livres, j'aime lire, etc. Mais je sais que beaucoup de personnes aiment la vidéo. Donc peut-être que je devrais faire de la vidéo et du react dès que t'as Darmanin ou Macron qui dit une bêtise.
Pourquoi t'en as pas fait jusqu'ici ?
Je pourrais.
Mais il y a une raison. T'as dû y penser, t'es pas bête.
Parce que j'aime bien ma tranquillité. Je suis plutôt tranquille là. J'ai un emploi du temps, je fais ce que je veux de mon emploi du temps. J'ai été en costume pendant 10 ans à travailler, parfois en cravate, c'est un enfer. Travailler de 9h à 6h ou 8h le soir. Et là, je fais mes horaires, donc je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller faire un ciné ou de me balader ou d'aller faire du sport en pleine journée, je peux le faire. En revanche, derrière, je vais bosser jusqu'à 2h du mat. Donc, voilà.
Ça ressemble à quoi une semaine type dans la vie de Thomas Wagner?
Chaque jour, il y a de la veille. De la veille parce que je lis la presse, je regarde ce qui se passe, ce que racontent un peu les politiques, etc. Et de la veille des nouvelles sorties scientifiques. Donc ça, c'est au moins 2 ou 3 heures par jour. C'est quotidiennement avec des experts et experts de chaque sujet. Et ce qui a trop bien, enfin, j'ai envie de rendre le changement climatique ou en tout cas le sujet intéressant. Ce qui a trop bien, c'est que ça concerne tout. Et en fait, j'adore. Ça fait 3 ou 4 ans que je fais ça. Tous les jours, j'apprends un truc. Je discute avec des gens, mais qui sont. Enfin, on a de la chance d'avoir des gens en France et d'ailleurs ailleurs, mais qui sont brillants et brillantes. Et j'apprends tous les jours un truc. En sciences sociales, en psychologie. On a écrit là sur l'éco-anxiété, avec un chercheur et une chercheuse, sur la santé, sur les relations amoureuses, sur les transports. C'est intellectuellement, j'adore. Et en fait, mon cerveau est nourri chaque jour. Et en fait, j'ai la chance, je crois que ça ne va pas s'arrêter, au moins jusqu'en 2050. Donc, je vais continuer à pouvoir bosser et à être passionné par ça. Il y a un moment d'écriture aussi dans la journée. J'écris pas tous les jours. J'accumule. Il y a des articles que je prépare depuis plus de 2 ans, là, typiquement sur les banques, ou un article que je t'enverrai au moins en privé, sur les femmes et le changement climatique, puisqu'on sait que structurellement, les femmes vont plus souffrir du changement climatique que les hommes. Et je prépare ça là depuis 6 mois, donc j'accumule tout ce que je trouve sur le sujet. Je vais le rédiger, je vais le faire relire par 2 scientifiques que j'ai en tête, et ensuite le partager au maximum. C'est un sujet que j'avais évoqué avec Swann Périssé, parce que elle connaît plein de féministes sur les réseaux sociaux, etc., qui connaissent extrêmement bien donc le sujet du féminisme. Mais sur le climat, enfin, tu vois, elle continue à se mettre en avant et à partir à Bali, à faire des allers-retours, etc., à Bali. Et je lui dis, ça, c'est pas ouf. Mais comme j'en ai un peu marre de passer pour le type qui est relou et qui va dire, excuse-moi, je crois que c'est pas terrible, j'ai besoin de personne et un peu de relais pour que ça passe mieux, quoi. Donc, je vais essayer d'écrire cet article et après que ça se partage un peu partout.
Je vous invite à écouter l'épisode avec Swann, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, que j'ai reçu sur InPower. J'ai une question que je me pose... par rapport à ton modèle économique et tu vois qui est très certainement un biais aussi entrepreneurial, je suis sûre que tu as pensé à cette question aussi. Est-ce que tu t'es pas dit pourquoi est-ce que je n'accepterais pas des financements d'autres, par d'autres verticales, que ce soit du consulting, que ce soit, je sais pas, de la vente de produits, t'écris aussi, donc il y a peut-être de ça, mais qui permettrait finalement du coup de gagner plus. Et qui te permettrait de pas te reposer sur le don de ces lecteurs et lectrices, et qui te permettrait du coup, vu que c'est ça la mission, de faire grandir Bon Pote et in fine de le faire, de l'améliorer, de l'adresser au plus grand nombre.
Tu as entièrement raison, c'est un questionnement que j'ai tous les jours. La réponse que j'apporte en général, c'est que en fait, même si Total Energy veut aujourd'hui me donner 1 million et me soutenir, aucun problème. Je prends les 1 million et derrière, je vais rédiger des articles pour prouver que c'est des criminels. J'ai aucun problème à ça, et où payer des avocats pour les attaquer. Donc, un financement de peu importe d'où il vient. En mai, je vais publier les comptes de Mon Pote. En fait, je vais full transparence. En fait, peu importe d'où vient l'argent. Moi, je veux bien réceptionner des dons et peu importe d'où ça vient. Tant que la contrepartie, en fait, ou des entreprises. Il y a une entreprise qui m'a soutenu, qui a donné 3000 euros à Mon Pote, mais je leur ai dit en avance, je ne vais pas faire votre promotion. Et si j'ai besoin de critiquer votre métier ou votre ligne ou je ne sais pas quoi, je vais le faire. On dit oui, on sait qui vous êtes, on sait, voilà. Je dis ok, bon, j'ai pas de problème à ça. Et effectivement, je réfléchis là petit à petit. Au début, c'était je rédigeais 100% des articles, puis 90%, puis 70% en gros là. Et je réfléchis parce que c'est épuisant aussi. Enfin, la façon dont je travaille, et je me mets à 100% dans un article, ça me prend beaucoup trop de temps. Et en fait, on n'a pas le temps. Si ça commençait à peine à cramer et qu'on avait des années devant nous, je travaillerais autrement, je pense. Mais là, j'ai juste besoin qu'il y ait des personnes qui m'aident, qui m'épaulent. Et qui experte parce qu'on a la chance d'avoir des gens géniaux en France et qui puissent écrire et voilà et que ça aille un peu plus vite. Donc l'objectif vraiment là, ce serait que n'importe qui aille sur Bon Pote, tu as un sujet en tête, il y a un article référent sur le sujet. C'est pas le cas. J'ai 200 brouillons, j'en ai 213 brouillons là, je viens de regarder hier. Donc en fait, je suis en train de stocker plein de trucs, mais j'ai pas le temps d'écrire en fait et j'écris pas vite en plus. J'écris assez doucement, c'est pas terrible. Sauf pour dire des bêtises, ça va. Mais quand je dois écrire un truc sérieux, je mets plus de temps. Donc il faut, voilà, je vais essayer sûrement de, potentiellement d'avoir plus de financement, qu'il y ait plus de personnes, lectrices, lecteurs, qui soutiennent le média. Mais j'aime pas trop demander de l'argent en fait. J'ai été salarié.
C'est dur, ouais. Je trouve que la démarche de.
Je l'ai fait une fois là en décembre. Ça me met pas du tout à l'aise. Ouais. Parce que j'étais salarié toute ma vie et que je savais combien j'allais gagner à la fin du mois, etc. Voilà, et là c'est un contrat en fait. Les gens ils soutiennent une fois par mois. Ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent arrêter du jour au lendemain. La seule chose que je peux promettre, c'est que je bosse sérieusement, que je continue à bosser sérieusement et que j'essaye. Voilà, de faire de la qualité, quoi. C'est la seule chose que je peux promettre.
Qu'est-ce que tu penses que les personnes qui nous écoutent devraient savoir pour prendre conscience de l'urgence climatique ?
Je pense qu'en général, ce que je conseille, si jamais une personne part de zéro, bon, après, on en a fait des trucs là sur Bon Pote, mais l'objectif, ce serait de se dire, d'avoir les ordres de grandeur en tête. Ça, c'est le plus important. Et de comprendre un peu chaque geste que tu fais au quotidien, ce que ça a comme conséquence. Typiquement, en termes d'empreinte carbone, donc l'empreinte carbone, très rapidement, c'est les conséquences de ta consommation. Donc, on va dire, en moyenne, les Français sont à 10 tonnes de CO2 équivalent par an. Et l'objectif, c'est de passer en dessous de 2. Il faut retenir cet ordre de grandeur. Donc, passer de 10 à en dessous de 2. Un vol aller-retour à New York, c'est environ 2. Ça veut dire que tu es le 1er janvier, tu fais un vol aller-retour à New York, tu reviens, c'est finito. C'est ce qu'il faudrait. C'est ça l'ordre de grandeur. Tu manges de la viande, c'est en gros 2 tonnes aussi. Donc tu fais ça, mais après tu peux plus te déplacer. Tu vois, voilà.
Ouais, ça me fait penser, j'y pense là, je place ça. Je le mettrai dans les notes. J'avais découvert une fois à une expo un site qui te permet de mesurer quelle est toi ton empreinte carbone. Ouais. Donc la moyenne en effet se situe autour de 9 ou 10 tonnes de CO2. Et en fait, ça te montre quelles actions la font augmenter ou la font baisser. Et je trouve que si on avait tous et toutes conscience de notre empreinte carbone, il y a un côté où ça nous responsabilise beaucoup plus. Et il y a un côté où tu dis, ah bah ok, bah en fait, si ma target c'est ça, enfin déjà si on arrive à être à 5, tu vois, en fait, alors c'est à moi de la gérer comme je veux, mais au moins. J'ai un ordre de grandeur clair. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout conscience de ça.
Je suis d'accord avec toi. Et en fait, cet outil-là, alors je vais élaborer un plus. Cet outil te permet de voir, mais ça prend 5 minutes et c'est en page d'accueil de Bon Pote.
Okay.
Et je l'envoie. Je sais qu'Hugo Clément s'en est servi, il l'avait partagé. Et là, on est en train de travailler avec YouTube France. Je vais spoiler, mais il y a certains gros YouTubeurs qui vont faire une vidéo de ça. Ce serait génial que tu en fasses une, que tu fasses la simulation et que tu montres les résultats, etc. Parce que ça permet vraiment d'avoir les ordres de grandeur instantanément et de comprendre en 5 minutes ce qui l'impact en gros de ton quotidien. Et bien sûr, ce que ça permet de comprendre aussi, c'est de te dire, ok, il y a de l'action individuelle, mais il faut toujours, toujours, toujours replacer ça dans un cadre collectif et de se dire que c'est les changements structurels, donc les changements de l'État, des entreprises, etc., qui vont permettre le changement des individus. Un mec va, alors c'est possible, va se mettre à vélo, mais si t'as pas d'infrastructure pour le vélo, c'est difficile. À Paris, tant que c'est pas protégé, moi je suis pas safe, hein, je monte sur le trottoir avec mon vélo, etc. Enfin, en gros, si c'est entre monter sur le trottoir et mourir par me faire taper par un SUV, l'arbitrage est assez vite fait. Donc, si on veut des changements et des changements individuels, il faut qu'il y ait des changements collectifs. Donc voilà, enfin, et c'est ce que, en gros, si les gens font la simulation de l'empreinte carbone, vont le comprendre très vite. En fait, t'es limité très rapidement. Si t'habites à 30 minutes d'Aix-en-Provence, typiquement, et que tu n'as pas le permis, que tu dois te rendre rapidement sur des lieux, etc., et qu'il n'y a pas de transport en commun,
au hasard.
Au hasard, évidemment. soit tu restes chez toi, soit tu pleures, soit t'es très riche et tu peux te payer des taxis à gogo, ce qui n'est pas bon forcément pour le climat. Donc voilà.
Non, mais c'est un arbitrage en effet permanent. Et encore une fois, la connaissance. Ouais. Et c'est pour ça que toi, j'ai l'impression que tu t'es donné cette mission-là. T'as très certainement dû penser quand même aussi à la mission politique, comme tu l'as très bien dit, pour mettre en place ces changements au niveau structurel. En fait, il n'y a que les politiques qui pourront le faire.
Il y a l'individu, mais les politiques ont le pouvoir. On parle souvent d'ailleurs de génération climat, ce qui est totalement faux. Il n'y a pas de génération climat. Ça, c'est important de le préciser. Les jeunes sont d'ailleurs ceux qui prennent le plus l'avion avec les jeunes retraités. Donc, il n'y a pas de génération climat. Et on attend et on fait peser le poids de la responsabilité sur les jeunes. C'est une énorme erreur parce que ce n'est pas eux qui ont l'argent ni le pouvoir de faire changer les choses. Donc ça, c'est souvent une inversion de la responsabilité. C'est bien les politiques et les mecs qui sont dans le CAC 40 et les autres qui ont 90% du levier. Je balance un chiffre un peu au hasard, mais c'est eux qui ont le pouvoir de changer les choses. C'est pas le jeune qui est étudiant et dans la précarité.
Ouais.
De mémoire, c'est 40% des étudiants qui sautent un repas sur... Je sais plus, il y a un chiffre comme ça, mais c'est aberrant. C'est pas à eux de changer le système. Ils vont y participer, Mais c'est pas eux qui ont les plus gros leviers, tu vois.
Précarité et climat. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est en opposition ?
Il y a un fait établi, et c'est scientifique, c'est le groupe 2 du GIEC qui le rappelle. La justice sociale est indispensable si on veut, en gros, là, arriver à la transition énergétique et la transition écologique. Ce que ça veut dire, très brièvement, c'est qu'on ne peut pas avoir des types qui se baladent en jet privé et de l'autre côté, demander aux Français de faire des efforts et de se chauffer à 19, etc., etc., tant qu'on ne régule pas les gens en haut, le bas va moins facilement faire des efforts. C'est un peu ça la logique. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, si on regarde dans les ordres de grandeur, ceux qui polluent plus, c'est ceux qui ont les moyens. Je tire le trait, mais si tu regardes en général, donc en moyenne, c'est le cas. Mmh. Bien sûr, il y a des particularités, etc. Mais enfin, l'empreinte carbone de Bernard Arnault, elle est supérieure à une personne de ma famille qui est au SMIC. Hein. C'est même pas discutable. Donc il faut faire des efforts. Et concernant la précarité, moi je suis particulièrement inquiet de ce sujet-là parce qu'on sait à nouveau, c'est la justice climatique, hein, les gens qui polluent plus ont probablement les moyens de mieux se protéger du changement climatique, typiquement d'avoir la clim l'été et d'être dans un logement pas insalubre. Là, il y a des études qui sont sorties, il y a un très bon article sur Mediapart qui est sorti sur Lille, Paris et Marseille, ces villes-là, quand il va faire 40 à 50 degrés, ça va être un enfer. Et typiquement Paris, donc ça c'est une étude scientifique qui le dit, qui l'a démontré, Paris est la ville où il y aura le plus de mortalité en Europe, c'est la ville qui va le plus souffrir du changement climatique avec les canicules. Bon, sachant que j'habite Paris, ça m'inquiète un petit peu, même si je suis encore jeune, on sait qu'en fait, dès que tu as un appartement qui est très mal isolé, etc., c'est un enfer. J'ai déjà travaillé sous 40 degrés dans mon appart, à me passer la tête sous l'eau toutes les 30 minutes, mais c'est 40. Il est possible qu'on atteigne 50 degrés à Paris. Donc là, à ce moment-là, tu ne me verras plus. Ou alors, je serai dans un cinéma planqué, tu vois, ou dans un endroit climatisé, parce que j'aurai la chance de pouvoir le faire. Mais des gens ne pourront pas le faire.
J'ai l'impression que cette immobilité est avant tout due à une raison économique. Et c'est vrai que c'est compliqué, tu vois, du jour au lendemain, de dire, on va fermer tous les sources de pétrole, on va Total, c'est ciao, je sais pas combien de milliers d'employés licenciés. En fait, comment tu penses qu'on peut réussir à adresser l'urgence climatique sans créer une catastrophe économique ?
La très très bonne nouvelle, et encore une fois, c'est le groupe 3 du rapport du GIEC qui est sorti en 2022, démontre qu'il y a plus d'avantages à changer qu'à ne pas changer. Puisqu'en fait, les conséquences du changement climatique et les catastrophes qui vont arriver vont coûter tellement cher que ça a plus d'impact. Et à partir du moment où on atteint plus 1,5 degré au niveau mondial, ça aura déjà plus de conséquences. Donc on a intérêt, même économiquement, à changer, globalement. Et pourquoi je dis globalement ? C'est parce qu'évidemment, dans le changement, tu as des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Là, aujourd'hui, le patron de Total, qui est très bien et qui gagne de l'argent en vendant du pétrole et du gaz, lui, il a moyennement intérêt à ce que ça change. Donc, il y a une minorité de personnes qui n'ont pas intérêt à ce que ça change, mais la majorité des gens dans le monde, et y compris en France, ont intérêt que ça change. Donc ça, il faut le rappeler et le rabâcher, parce que je sais qu'il y a des politiques qui disent « ça va coûter un pognon de dingue de changer pour Manu ». C'est faux, en fait. C'est factuellement faux et c'est démontré scientifiquement. Donc ça, il faut le rabâcher. Et dans mon monde idéal, les journalistes, systématiquement, quand tu as un politique qui raconte une connerie pareille, boum, il serait repris. Et sur tous les sujets d'ailleurs, ça s'arrête pas qu'au climat, sur le social, sur tous les sujets, j'adorerais que les gens soient repris, quoi. Donc il y a un intérêt en fait, il y a un intérêt à changer, et puis même, on parle pas au-delà de l'économie en fait, on peut parler du bien-être, il y a un intérêt à changer également pour le bien-être, et c'est démontré scientifiquement, mais il n'y a pas, à Paris, tu m'enlèves les gros SUV, tu m'enlèves la pollution, etc., avec des transports en commun qui marchent bien, etc., mais on va mieux vivre, hein. Moins de pollution lumineuse, moins de pollution... moins de bruit, mais moi je signe tout de suite en fait. C'est pas ce que je veux dire par là, c'est que le changement n'est pas forcément un enfer. Enfin, moi je vois plein de co-bénéfices et j'ai envie que ça change en fait. On a plein d'intérêts pour que ça change et j'ai envie que ça change.
Comment tu prends soin de ton bien-être ?
Le sport, les amis, le voyage, c'est tout bête, hein, mais ça me permet. On me pose la question quotidiennement parce que évidemment ce que je lis c'est quand même 99% des mauvaises nouvelles, hein. Quand tu travailles dans le climat, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais moi je suis plutôt bien. Et je suis plutôt bien parce que je pense que je suis dans l'action, je suis pas en dissonance cognitive. Je pense que j'étais très mal quand j'étais en banque à me dire putain je fais un taf alors que c'est en train de brûler, je fais un taf qui n'est pas en adéquation avec mes valeurs. Ça c'était très difficile à vivre, donc je sais que je suis privilégié et que je sais pourquoi je me lève le matin et c'est une chance incroyable. Je sais même pas si la majorité des Français pourraient dire ça, je pense pas d'ailleurs. Donc j'ai de la chance et quand je sens J'ai eu du mal au début à m'écouter, parce que surtout que j'étais salarié, donc tu sais, t'avais des horaires fixes, 9h, 6h, 9h, 8h, etc. Là, quand je me suis retrouvé à travailler de chez moi et être en télétravail, il n'y avait personne pour me dire stop. Enfin, de temps en temps, il y avait quelqu'un pour me dire stop, mais pas toujours. Donc, je pouvais travailler jusqu'à minuit, 2h et jusqu'à épuisement. Donc, je me suis retrouvé dans des situations, notamment en 2022 et 2023, où c'était très moyen, c'était pas foufou niveau santé. Mais là, j'ai appris, bon, j'ai 37 ans, mais j'ai appris à m'auto-gérer, à mieux m'écouter et à ralentir quand j'ai besoin de ralentir. Je le fais beaucoup mieux aujourd'hui. Là, je rentre de voyage, donc je suis encore dans la lune, etc. Donc, tout va bien. Mais je me suis déjà remis là au travail, ça va quoi.
Quelle a été la période la plus difficile de ta vie ?
Peut-être 2020, parce que j'ai dû quitter mon travail, parce qu'il y a eu le Covid. Donc ça, c'était un peu... J'ai pas eu... Il y a des gens qui apparemment étaient très bien pendant le début et le confinement du Covid. Moi, c'était pas mon cas. J'ai pas très bien vécu.
T'étais où ?
Chez moi, dans un petit appart.
À Paris ?
Yes, à Paris. Genre, j'ai eu la possibilité de partir en province, mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur de refiler quoi que ce soit à ma... Enfin voilà, à des gens de ma famille qui ont la santé plutôt fragile. Et j'étais dans 27 mètres carrés, seul. Voilà, au début, ça allait. Et petit à petit, la dissonance cognitive du boulot, plus ne pas voir des gens, plus ça a été très dur. Mais bon, ça va. Tu vois, c'était en 2020, ça va.
C'est un sujet pour toi, la santé mentale ?
Ça l'est, au-delà que ce soit le cas pour moi, ça l'est pour, et je sais que l'éco-anxiété l'est pour les jeunes. Hein. Il y a une immense majorité de Français, et notamment chez les jeunes, où c'est un sujet. C'est pour ça qu'on vient de sortir un article sur l'éco-anxiété. Et le meilleur remède contre l'éco-anxiété, c'est l'action. Donc voilà, petit message à passer. Si vous êtes mal, bougez-vous les fesses. Et normalement, enfin, il y a des chances que ça aille mieux, en gros. C'est ça un peu le message. Mais oui, c'est un sujet. Enfin, il y a Gabriel Attal, là, il y a une semaine, qui vient de rappeler que c'était un sujet. Mais lui, enfin, bref, c'est le gouvernement. Macron se moque un peu du monde. Enfin, vous voulez que les gens aillent mieux, bah mettez les moyens pour qu'ils aillent mieux, en fait. C'est aussi simple que ça. Typiquement pour l'éco-anxiété, enfin, agissez vraiment pour le climat et les gens se sentiront mieux et auront moins d'éco-anxiété. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que les étudiants et les étudiantes aillent mieux et que l'école aille mieux, mais mettez les moyens.
Et pourquoi ils ne les mettent pas, à ton avis ?
Il faut leur demander. J'espère que tu vas les recevoir. Ils ne mettent pas les moyens parce qu'ils ont des intérêts à mettre de l'argent ailleurs. Et ils répondent à certains intérêts privés, en l'occurrence, c'est pas public, c'est pas pour l'intérêt général. Et c'est toujours comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Un exemple récent, c'est l'autoroute A69. La construction de l'autoroute A69, on sait, il y a eu des papiers, il y a eu des tribunes avec 1500 scientifiques qui ont rappelé qu'il n'y a aucun argument pour construire l'autoroute, aucun. Donc les scientifiques l'ont démontré, il y a des gens sur place qui l'ont démontré, tant pour même l'aspect économique, il n'y a même pas d'intérêt. Jusqu'au bout, vraiment, il n'y a pas un argument pour construire cette autoroute. Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, et le nouveau, et le gouvernement dit « si, si, on va le construire ». Parce qu'ils répondent à certains intérêts, donc enfin, le groupe Fabre, etc. Mais ce n'est pas de l'intérêt général, c'est de l'intérêt privé, etc. Donc c'est pour ça que j'aime à rappeler que le combat écologique, là, c'est un combat politique. C'est pas parce qu'on a les faits, bien sûr qu'on a les faits et on sait scientifiquement, mais ça ne suffit pas. Savoir ne suffit pas, c'est juste le démarrage de l'action. C'est un peu mon job d'informer, mais aussi de rappeler que, en fait, si on ne se bouge pas et qu'on ne rentre pas dans le rapport de force, parce que c'est ça, et c'est pareil pour le féminisme, en fait, je pense à Darmanin et l'autre Macron qui a fait les louanges de Gérard Depardieu en direct à la télé.
Ouais.
Bon, bref, je vais pas commencer là-dessus, mais c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Et ça, c'est encore la grande cause du quinquennat, comme l'écologie l'est, comme l'école l'est. Enfin, tu vois, bon, bref. Donc, il faut se battre politiquement et comprendre qu'il y a un rapport de force tout le temps et qu'en face, ils ont les armes et l'argent pour se battre.
Ils ne t'ont pas proposé une rencontre ?
Si, si.
Parce qu'ils sont assez bons pour ça.
Alors, oui, bah, en fait, dès que tu as un peu d'audience, ils viennent te voir, ils veulent savoir qui t'es, comprendre qui t'es. C'est la récupération politique très classique, tu l'as
eu. Oui, mais tu peux en profiter. Enfin, moi, à chaque fois, je me dis, bah, j'en profite pour leur faire passer des messages clairs et leur dire, en fait, venez, on fait genre un truc concret.
Ouais.
On fait une campagne. Parce que, en fait, je sais pas quel est ton avis là-dessus, parce qu'il y a de tous les avis. On en parlait dans l'épisode avec Victor Tuaillon. Personnellement, j'appartiens à l'école où ce qui compte le plus, c'est la fin. Donc, en fait, même si je dois travailler avec des personnes que j'apprécie pas forcément ou que je soutiens pas forcément politiquement, en fait, si ça permet de rendre les protections hygiéniques gratuites, par exemple, ouais. Bah, en fait, je vais le faire. Et donc, toi, tu pourrais te dire, bah, OK, il y a telle personne qui travaille aujourd'hui au ministère qui souhaite te rencontrer. Tu peux en profiter pour dire, bah, en fait, OK, moi, je vais vous aider. J'ai cette expertise-là. Venez, on met ça en place et on le porte ensemble, quoi.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, à partir du moment, s'ils étaient sincères, donc le « si » est important, s'ils étaient sincères, Bien sûr que je travaillerai avec le gouvernement, bien sûr que je le ferai en fait, mais c'est pas le cas. J'ai déjà une ministre, elle est partie là depuis 3 semaines, mais qui m'a proposé d'échanger plusieurs fois. J'ai dit non en fait, ça sert à quoi qu'on se voit? Vous voulez discuter de la planification écologique, vous voulez discuter de l'A69, j'ai déjà écrit dessus. Vous avez des experts, ils ont un cabinet pour savoir, ils ont pas besoin de moi, ils ont pas besoin de Thomas Wagner pour savoir les tenants et aboutissants du sujet. Ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est de la récupération et c'est en gros, une fois qu'on s'est vu et faire une photo et tout sourire, etc. Moi je peux plus ensuite les critiquer ouvertement, voilà, donc c'est de la récupération politique, ils adorent faire ça, c'est leur job. Bon, moi j'ai pas de temps à perdre en fait, je m'en fous que tu sois ministre, j'ai pas 3 heures de ma journée, je préférerais même jouer, alors j'allais dire jouer à la PlayStation 3 heures et me détendre qu'aller perdre du temps avec, et en fait je m'en fous de faire un post sur LinkedIn, bonjour j'ai rencontré le ministre Christophe Béchu hier,
je m'en fous
en fait, et si Christophe Béchu veut sincèrement avancer, aucun problème, je prends mon agenda et on va travailler 20 heures de suite ensemble. Aucun problème.
Mais l'appel est lancé. Hein.
Christophe, si tu nous entends. En fait, ces gens-là ne sont pas honnêtes. S'ils l'étaient, aucun problème, vraiment.
Mais en fait, je sais pas, moi j'avoue, je suis peut-être naïve. Hein. J'ai du mal à croire qu'ils soient tous mal intentionnés. Enfin, il y en a très certainement. Hein. Mais je veux dire, pourquoi... Enfin, en soi, tu te fais plus d'argent dans une carrière dans le privé hein, que dans le public,
oui, mais c'est
tu vois.
Alors, bien sûr, mais c'est une question de pouvoir. Donc ça ne s'arrête pas, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Alors, je vais donner un exemple. Sur la régulation des jets privés, l'été 2022, Clément Beaune, qui était ministre des Transports, a dit « Oui, je crois qu'il faudrait réguler ». Le soir même, Emmanuel Macron lui a dit « Non, il ne faut pas réguler ». Le lendemain, Clément Beaune sur les plateaux « Je pense qu'il ne faut pas réguler ». Voilà. Il s'est couché en 0,1 seconde. Donc ses convictions, il les a mis de côté. Pourquoi ? Parce qu'il voulait garder son poste et donc le pouvoir. Dans mon monde idéal, quand tu as des convictions, tu vas jusqu'au bout et tu tiens tête. Et tu te fais virer si jamais. En fait, ces gens-là ont tellement une position de privilège que tu peux aller au bout de tes convictions. Et un Clément Beaune, qui est quelqu'un... Quand tu arrives à ce niveau-là, en général, tu es assez malin ou intelligent. On choisit l'adjectif que tu veux. Pour faire autre chose après. Bien sûr que tu vas te retrouver dans le privé parce que tu auras un portefeuille, tu auras des contacts, etc. Donc, moi, j'en veux à ces gens-là. Et je pense que Clément Beaune, en l'occurrence, a des convictions écologiques, de s'être écrasé dessus, comme pour le vote avec l'extrême droite ou sur plein d'autres sujets, etc., et de ne pas être allé au bout de ses convictions. Et maintenant, il s'est fait sortir du gouvernement. Mec, tu n'as rien gagné au final. Tu passes pour un clown, tu aurais dû aller jusqu'au bout de tes convictions. Mmh. Mais bon, à l'époque, il était ministre, il est resté sur un siège au chaud. Voilà. Mmh.
Ça fait plusieurs fois que tu parles de ton monde idéal. Il ressemble à quoi ton monde idéal ?
Il n'y a plus de réchauffement climatique, il n'y a plus d'effondrement de la biodiversité, il n'y a plus de racisme, ça fait 3. Il n'y a plus de violences sexistes et sexuelles, ça fait 4. Ouais, il y a un maximum de personnes épanouies. On peut voyager sans brûler la planète. On peut continuer à jouir de la culture, de l'art, etc. En France, ça, c'est un truc qui me tient aussi à cœur. De l'art, de la musique, parce que j'écoute 10 à 15 heures de musique par jour.
T'écoutes 10 à 15 heures de musique par jour ?
Yes.
Tu bosses en écoutant de la musique ?
Je travaille. Il me faut de la musique sans parole quand je dois focus. Et sinon, oui, j'ai de la musique quand je suis en train de lire de la presse vite fait ou de regarder des conneries sur Instagram. Il peut y avoir des paroles. Mais sinon, oui, j'écoute de la musique, j'aime bien ça. Mais j'ai envie de continuer à justement pouvoir en profiter. Enfin, je veux dire, tout le monde, ou quasiment tout le monde, est allé en concert et a profité des concerts. Ça devient un problème quand c'est immense. Les événements sportifs, c'est pareil. Là, il y a les JO qui arrivent. Je suis évidemment... Enfin, j'aime le sport depuis tout petit. Ça fait 30 ans que j'en fais. Mais là, les JO, c'est n'importe quoi. D'un point de vue social, j'en parle même pas. Mais d'un point de vue écologique, c'est n'importe quoi.
Alors, dis-nous, parce que pour le coup... Je sais que c'est aussi... j'avais aussi reçu des messages à ce niveau-là, donc du coup, je m'étais renseignée. Et j'avais quand même lu de sources sûres que c'était les jeux les plus écologiques de l'histoire. Après, c'est très certainement que c'est peut-être le moins pire et pas le mieux. Mais comment tu fais pour organiser une compétition sportive de cette ampleur sans avoir un impact fort au niveau écologique ?
Alors, ta remarque est très pertinente. Il est possible... il faut que je sorte l'article, donc. Mais il est possible que ce soit les jeux les moins polluants de l'histoire, c'est possible, mais ce n'est pas soutenable en fait. Dans un monde où on doit respecter l'accord de Paris ou être proche des plus 1,5 degrés au niveau mondial, les Jeux Olympiques ne sont pas soutenables. C'est quoi le plus gros de l'empreinte, typiquement du bilan carbone d'un événement pareil ? C'est l'avion.
Ouais.
Parce que t'as des gens qui viennent de partout dans le monde, c'est pas jouable en fait. Un Américain qui vient, c'est fini. C'est 2 tonnes CO2 équivalent, boum, c'est fini. Ton bilan à l'année, c'est finito. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et à partir du moment où les gens, parce qu'ils m'ont contacté aussi, les gens des JO 2024 pour dire, vous savez, on a fait beaucoup d'efforts, etc. Mais en fait... ne perdons pas de temps. Enfin, essaye pas de me prendre pour un jambon. On va discuter directement. Tes JO ne sont pas soutenables. Tu as fait des efforts, très bien, mais ce n'est pas soutenable. En fait, n'essaye pas de me la faire. Enfin, voilà.
Voilà les chiffres, quoi.
Voilà les chiffres, en fait. C'est mieux. Et moi, j'aime le principe des JO, je trouve ça cool, etc. J'aimerais que ça continue. Mais réfléchissez concrètement à rendre ça beaucoup plus soutenable. Et comment on fait ? Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que le monde du sport et l'art, etc., tout le monde se pose sur la table, enfin, s'assoit autour d'une table, pardon, se pose sur la table, c'est un peu chelou.
Oh, c'est sympa aussi, c'est sympa danse, aussi,
mais
tu vois.
Voilà, on devrait. Mais en gros, ils discutent de ce sujet-là, de se dire, on fait comment ? Et si on ne peut pas le maintenir, eh ben, on ne le maintient pas. Ou alors, on accepte les conséquences de l'autre côté, c'est-à-dire que ça brûle partout et qu'il y ait des dizaines, voire centaines de milliers de morts, parce que c'est déjà le cas, et ça va devenir de pire en pire. C'est pas catastrophiste de lire, on sait, ça arrive déjà, donc je suis pas en train d'inventer. Mais moi, j'aimerais vivre dans un monde où on peut continuer à kiffer le sport, à kiffer la musique, voilà, et je me bats pour ça. Hein. Mmh. Je suis pas, je pourrais faire un autre job. Tu parlais tout à l'heure du public privé. Très sincèrement, aujourd'hui, moi, Thomas Wagner, je pourrais être consultant en finance climat, probablement gagner beaucoup plus ma vie qu'aujourd'hui là, avec mon pote, et ne pas me taper les remarques et les menaces de mort sur les réseaux sociaux. L'arbitrage, il est très vite. Hein. Peut-être que je vais finir par faire ça, hein, mais ou partir aux États-Unis et je sais pas, lancer une chaîne sur YouTube de développement personnel, j'en sais rien, ou de vendeur de jus d'orange, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais faire, tu vois. Mais je pourrais être plus tranquille, quoi.
Est-ce que le fait que toi, tu existes sur les réseaux sociaux dans un but supérieur, d'une cause supérieure qui est le climat, te protège de l'ego qui va avec. Ce que je veux dire, c'est que t'es quand même très suivi, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, et voilà, t'es quand même très exposé. C'est parfois difficile, du coup, de pas se comparer à d'autres, de pas s'arrêter aux chiffres, d'aller au-delà des critiques. Est-ce que t'y arrives parce que ce que tu fais, c'est pas pour toi, en fait. Finalement, c'est pour le climat.
Bon, c'est pour moi et c'est pour tout le monde. En fait, ça, c'est un truc pas mal. On peut être égoïste dans le climat. Moi, typiquement, je pourrais me battre pour ma retraite, là. J'aurais juste passé à des étés sans qu'il fasse 50 degrés. Peut-être que ma démarche est très égoïste, au fond. Mais c'est pas grave, en fait. Peu importe votre démarche, si vous faites l'effort de tendre vers un truc soutenable, moi, ça me va très bien. On m'a posé... Enfin, pardon, je digresse un peu, mais...
Il n'y a pas de digression dans ce podcast.
Allez, la sincérité des youtubeurs qui commencent à parler climat. McFly et Carlito, Hugo Décrypte, etc. Mais moi, que ce soit sincère ou pas, je m'en fous, en fait. À partir du moment où on parle du sujet, on n'en parle pas. Donc, et si eux ont l'intelligence, en plus d'inviter des personnes qui ne disent pas de bêtises, mais go, en fait. Que ce soit sincère ou pour les vues, je m'en fous. Juste, on parle du climat. C'est tout ce qui m'importe. Et qu'on en parle bien, si possible.
En fait, tu vois, pour prendre cet exemple très concret, si toi, demain, tu faisais une chaîne YouTube...
Oui, alors pardon.
Tu vois, et que tu faisais pas de vues,
ouais.
Comment tu te sentirais ? Comment tu te sens quand t'as un post qui floppe sur les réseaux ?
Ah, en fait, je ferais autrement. Là, si je voulais vraiment buzzer à chaque fois, bon pote serait très différent. J'ai à peu près compris les codes de ce qui marche et ce qui marche pas. Et ça a mis du temps à ce que je trouve un peu ma ligne éditoriale. Mais ça me va très bien, en fait. J'ai pas envie de buzzer. C'est aussi pour ça que je mets pas ma tête en avant. Je mets surtout bon pote en avant. Et je mets pas ma tête en avant. Il y a encore des gens qui viennent soit en conférence ou qui me croisent. Et je dis rien, et d'un coup je leur dis ouais, c'est enfin mon ami ou quelqu'un dit c'est mon pote, quoi. Donc ça me va très bien que les gens connaissent pas ma tête. C'est les réseaux sociaux, donc quand tu te fais absorber, évidemment que c'est mieux quand ça buzz et que ça a de l'impact, que je suis content. C'est impossible de dire le contraire, mais je ne vis pas pour ça. Là, on vient de partir, encore une fois, voir les aurores boréales. J'ai pas fait beaucoup de posts où j'ai lâché vraiment les réseaux sociaux parce que ça m'a fait aussi du bien et je cours pas après les likes, quoi. Je vois parfois, et même là, pendant le voyage, j'ai vu des choses où j'avais envie de rebondir. Enfin, j'ai vu Darmanin encore sortir des trucs, j'étais là, mais... Et je l'ai pas fait. J'ai fait, bon, allez, laisse tomber. Mais c'est vrai que il y a un gros risque, pour tout le monde d'ailleurs, un risque d'hubris, évidemment. Toi, ton ego, il y a des gens qui pètent des plombs parce qu'ils commencent à avoir des followers et ils se sentent plus. Je vais faire un peu d'autodérision. Ma meilleure amie dirait que j'avais déjà un ego énorme, donc ça ne changera pas. Donc voilà, je suis plutôt sécure là-dessus. Je cours pas après ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça me va très bien que ce soit bon pote qui soit mis en avant et d'autres personnes que moi.
Comment tu fais pour pas devenir aigri ? Parce que quand on est dans la position du sachant, enfin en tout cas quand on a toutes les connaissances que tu as, je trouve ça difficile d'observer, de constater des comportements qui ne font pas sens à nos yeux, à juste titre, et de rester impassible.
Je lutte contre moi-même, parce que c'est pas toujours facile. J'ai appris, j'ai fait évidemment des erreurs. J'ai appris à la communication, j'ai essayé d'améliorer la communication. Déjà, enfin, c'est ce que je disais au tout début, insulter les gens, ça ne sert jamais. Bon, je l'ai jamais fait, je fais très attention à ce que j'écris. Mais je vais quand même chercher des gens. Il y a des influenceurs qui font la promotion. Enfin, typiquement aujourd'hui, quand tu as 1 million de followers et que tu fais la promotion d'un pour faire gagner un voyage en avion, etc. En 2024, quand la planète est en train de cramer, pour moi, c'est n'importe quoi. Donc, il faut. Mais j'aimerais que ce soit pas moi qui le fasse. J'aimerais qu'en fait, ça devienne une évidence. Tu vois, que j'ai plus besoin de le faire. Ça peut être difficile. Mais il y a beaucoup de gens qui sont évidemment aigris et tu vois. Je pense que ce qui me fait tenir et ne pas devenir aigri, c'est l'humour. Il faut avoir de l'humour. Hein. Quand tu es au courant de ce qui se passe, et les humoristes font incroyablement. Tu as reçu Swan, elle fait incroyablement bien le job là-dessus. Je pense à Aymeric Lompré et d'autres personnes, Karim Duval, etc., qui parlent de ces sujets-là. Enfin, il faut se détendre, en fait. Ça, c'est déjà la première des choses. Enfin, sinon, tu deviens fou. Tu vois que ça crame, tu vois que le gouvernement est en train de te dire, mais qui aurait pu prédire la crise climatique ?
T'es là, le GIEC.
Tu te fous de nous, Emmanuel Macron, là. Mais donc, non, il faut trouver des soupapes pour éviter de devenir aigri. Enfin, sinon tu te suicides au bout de 7 jours. Là, avec la gravité de ce que tu lis, si tu n'arrives pas à trouver de soupape, tu pars très très vite en dépression.
Quelle est la dernière chose que tu as fait pour la première fois ?
La dernière chose que j'ai fait pour la première fois ? J'ai envie de te répondre, voir des aurores boréales il y a quelques jours. La dernière chose que j'ai fait pour la première fois ? Tiens, pour porter un legging pour aller courir. Là, je suis allé courir dans les îles Lofoten et il faisait -2 et j'ai fait un footing et voilà. C'est n'importe quoi. J'ai pas eu froid, c'était génial avec une vue incroyable. Donc voilà, il y a sûrement des choses plus intelligentes à dire.
Mais
comme je reviens de voyage, c'est tout ce qui me vient en tête là.
On en a eu deux, on a eu et le legging et les aurores boréales.
Voilà.
Si jamais tu pouvais dîner avec quelqu'un demain, avec qui est-ce que tu voudrais dîner ?
De vivant ou de ?
De vivant.
Oh. Sinon, j'aurais dit, je pense, Robin Williams ou Amy Winehouse. Mais
pourquoi Amy Winehouse ?
Amy Winehouse ? Juste l'entendre. Peut-être qu'elle chanterait pas à table, tu me diras. Mais
Elle a une voix incroyable.
De vivant, je dirais peut-être François Damien, qui me fait rire avec ses vidéos de François Lambrouille que j'ai vues il y a 10 ou 15 ans, et qui me fait beaucoup rire. Non, ce serait pas forcément un politique. Peut-être que François Damien, ça m'irait. Okay.
Et dans les rencontres que toi, tu as pu faire ces dernières années, laquelle t'a le plus marqué ?
Peut-être Valérie Masson-Delmotte, qui est l'ancienne vice-présidente du groupe 1 du GIEC, qui est très engagée pour le climat, qui est, je pense, la scientifique la plus connue de France sur le climat, et qui est une femme incroyable, qui est une machine de boulot, qui connaît tous les sujets sur le bout des doigts et qui, en plus, elle a une approche et une communication qui est très bonne. Elle va jamais chercher les gens, elle va juste parler du sujet. Et je trouve que c'est un exemple, je prends exemple aussi sur elle. Voilà, toujours une prise de hauteur, toujours le bon ton, toujours... voilà. Et elle est... Bon, c'est une inspiration. C'est une femme incroyable. Si les gens ne la connaissent pas, il faut aller l'écouter en conférence. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat en 2019, où il y a eu 150 citoyens tirés au sort pour se former sur les sujets écologiques. C'est elle qui a fait la première session. Il y a eu des gens qui ont pleuré au bout de 15 minutes dans le public. Donc elle est capable de mettre des claques à plein de gens. Non, mais il faut l'écouter, en fait. Allez l'écouter, vous comprendrez pourquoi cette femme est formidable.
T'as perdu des amis depuis que t'es engagé ?
C'est une très bonne question. Alors, il y a des gens que je vois moins, évidemment, pour les
ton
vacances.
Meilleur ami.
Oui, bah lui, mais je l'ai pas perdu, évidemment. Ouais, je pense que les vrais amis, tu les perds pas et tu les perds pas pour ça. Enfin, tu respectes les choix des uns et des autres. Bon, sauf si le type commence à être d'extrême droite et à dire que voilà, est raciste full, peut-être là je vais changer. Mais il faut pouvoir écouter. Enfin, les amis s'écoutent et acceptent les différences. Il y a des gens que je vois moins, évidemment. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées depuis que je vois beaucoup plus. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça que je dis que le changement climatique va chambouler les relations amoureuses et amicales. Mais je ne crois pas avoir perdu d'amis. Il y a des gens que je vois moins, tout simplement. Mais je ne crois pas avoir perdu d'amis, non.
Qu'est-ce qui t'énerve en interview ? De quoi est-ce que tu n'aimes plus parler ? Il n'y a pas une question que les gens te posent et tu es là...
Allez, parce que tu me poses la question, il n'y a rien qui m'énerve particulièrement. Mais peut-être quand on réduit le travail de bon pote à c'est le sniper des réseaux sociaux, etc. Je suis un peu présenté comme ça.
C'est vrai que tu as un surnom, le sniper de LinkedIn.
Non mais, c'est vrai ?
Ouais. Dans les recherches qu'on a faites...
D'accord.
Si je t'apprends, bah voilà. Après, c'est chouette.
Ah, oui.
Non bah, c'est valorisant. Oui, on t'appelle non, pas la couille molle de LinkedIn, tu vois.
Enfin, oui, mais je sais pas si c'est valorisant, mais en revanche, on cantonne mon travail. Sincèrement, mes commentaires sur LinkedIn, ça me prend 3 minutes. Je préférerais qu'on parle des articles qui me prennent 100 heures de boulot que quand je viens de sniper, je sais pas, Elisabeth Borne qui vient de dire une connerie, en gros.
Ouais.
Mon travail passe par autre chose, le fond. Mais évidemment, les gens vont s'attacher sur la forme, etc. Et dire il est agressif ou il va chercher les gens, etc. Mais enfin, regardez le fond du travail, en fait. Et ensuite, juger.
Pourquoi tu ne mets pas tes articles sur LinkedIn ?
Je les mets.
Ah, tu les mets
aussi ? Il y a une page Bon Pote, tu as dû regarder Thomas Wagner, mais il y a une page Bon Pote, je ne sais plus, 190 000 followers, un truc comme ça. Bien sûr. C'est LinkedIn est un réseau important. Et surtout un réseau comparé à Twitter qui est dépolitisé. Ça commence à changer, mais le climat n'existait pas trop il y a 3 ou 4 ans. Et bon, en discutant avec des gens qui travaillent chez LinkedIn, on a plusieurs personnes, dont Jean-Marc Jancovici, que tu as déjà reçu, imposé entre parenthèses le sujet. Donc aujourd'hui, après il y a les bulles de fil, donc il faut faire attention. Mais le climat aujourd'hui est incontournable. Enfin, tout le monde en parle, y compris les bullshitters d'entreprise. Tout le monde est vert sur LinkedIn. Tout le monde est beau, tout le monde est vert, nanana, nanana. Puis il y a 2-3 personnes comme moi qui disent « Bon, toi, t'es pas si vert que ça, mais... » C'est en train de se politiser LinkedIn, dans une moindre mesure. Et c'est pas le cirque qu'il y a sur Twitter, typiquement. Mais ça change un peu. Mais même Instagram change. Je pense qu'il y a des choses qui passaient avant, qui commencent à moins passer.
Ouais.
Typiquement, les posts où ça foule surconsommation, Chine, etc. Avant, il y avait rien. Aujourd'hui, même quand j'arrive après, il y a déjà des dizaines, voire des centaines de commentaires. Les gens vont lui dire « Ouais, ça, c'est pas terrible. » Et pour l'avion, et pour la surconsommation, et le shopping que tu viens de faire, etc. Donc, ça commence à changer. Et moi, mon but, et dans mon monde idéal, à nouveau, ce serait que les personnes changent naturellement sans qu'il y ait besoin de leur dire « Là, c'est pas terrible ce que tu fais, un. » Et deux, t'as une possibilité de shitstorm derrière. Parce que ça va... Plus les gens vont prendre conscience, plus, malheureusement, et c'est inévitable, vont aller chercher des ennemis, etc. Ou des responsables, pardon. Je n'ai pas envie de ça et j'ai pas que ça à faire en plus. J'aimerais pouvoir qu'on en discute en amont et je discute déjà avec plein d'influenceurs, influenceuses, des gens qui partent de zéro en fait, mais même que t'aies 10 followers ou 1 million et certaines personnes qui veulent me parler, on discute et voilà, si t'as besoin d'infos, je suis toujours, toujours dispo pour ça.
Oui, mais c'est ça qui est difficile, je trouve, dans ce que tu disais juste au début de ta phrase, à savoir, dans mon idéal, j'aimerais que finalement ces personnes-là changent naturellement. Je pense que c'est très dur de changer quand tu ne sais pas. D'où l'importance de faire de la prévention, de partager au maximum l'information, de renforcer les cours sur le sujet, tu vois, au primaire et au collège. Mais en fait, je trouve ça difficile de... Enfin, moi, j'ai toujours de garder cette bienveillance en tête quand je vois, en effet, des hauls de marques de fast fashion, parce que vu que c'est mon sujet avec ma marque responsable, tu vois, à chaque fois, ça me tend. Mais en fait, je garde en tête qu'elles, parce que c'est souvent des femmes, elles font du mieux qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, quoi.
Alors, ça m'intéresse de savoir quelle est ton approche. Tu parles de personnes qui font la promotion de ça ? Tu parles des marques directement ou des
Non, je parle des... Bah, tu sais, t'as des... C'est même pas... Enfin, c'est des créatrices de contenu, mais qui n'ont pas forcément des énormes communautés. Mais tu vois, sur TikTok, des filles de... que ce soit des Françaises ou des Américaines, qui vont avoir voilà, une petite communauté... Et qui vont te faire un haul de toutes leurs nouvelles pièces.
Unpacking, j'ai oublié comment ça s'appelle.
Un unboxing, ouais. Ou un try-on, tu vois, de Chine ou de Cider, une autre marque qui fait vachement de pub sur TikTok. Bah, en fait, oui, moi, ça, à chaque fois, ça me fend le cœur et je me dis, mais est-ce que vous savez à quoi vous contribuez ? Est-ce que vous savez que les personnes, enfin, que si toi, tu n'as pas payé le prix, c'est que quelqu'un d'autre le paye à ta place.
Yes.
Mais, en fait, je ne peux pas les blâmer si elles, elles n'ont pas l'info, quoi. En fait, il y a la voir et la comprendre, tu vois. Elles ont peut-être vu passer des articles sur les Ouïghours, mais tant que tu n'as pas... Enfin, en fait, c'est plus tu sais, plus tu es convaincu. Et c'est, tu es cet extrêmement bon exemple, tu vois. Tu as un niveau de connaissance bien supérieur au mien, ce qui explique, du coup, que ton engagement soit là où il est, tu vois. Et par exemple, moi, sur la mode responsable, je suis très au courant. J'ai une marque de mode responsable, donc je connais tout ce qui se passe dans les usines, les matières, leur impact, etc. Que ma propre sœur revienne la dernière fois avec un sac Zara. Enfin, tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raté ? mais parce qu'elle-même n'a pas les connaissances que moi, j'ai emmagasinées.
Et tu lui dis ?
Bah oui, je lui dis.
Ok, ça a changé.
Je lui dis, mais...
C'est quoi ton approche pour l'exemple ? Est-ce que l'exemplarité est hyper efficace ? Mais c'est quoi ton approche en général ?
Écoute, je sais qu'elle a regardé les vidéos YouTube que j'ai fait sur le sujet. Et en fait, tu vois, c'est marrant, ça m'a aussi, son exemple m'a fait réaliser que l'engagement peut être aussi très contextuel. C'est-à-dire que quand elle était à Paris, donc c'est elle qui est partie à New York, quand elle était à Paris et qu'elle vivait, enfin on vivait ensemble, on se voyait très souvent, elle regardait mes vidéos, etc. Elle était vachement là dans une démarche. « Oh regarde Louis, j'ai acheté ça en vintage. Oh tiens, j'ai trouvé ça en fripe. » Et comme tu dis, sans que j'ai forcément à partager quoi que ce soit, l'exemplarité et les vidéos ont fait que. Et depuis qu'elle est partie aux États-Unis, donc ça fait 1 an et demi, désolé Camille, je t'affiche un peu, mais on t'aime quand même. Et que du coup, on se voit beaucoup moins. Que même moi, je fais moins de contenu sur ce sujet-là. Qu'elle a ses potes qui aussi l'entraînent pour aller faire du shopping, etc. ben, tu sens qu'elle s'est un peu assise aussi sur ses convictions, mais parce que elle n'a pas les connaissances que, enfin, tu vois, moi j'ai en ayant lu sur le sujet des heures et que toi tu as aujourd'hui, tu vois.
Bah, il y a une phase de. Bon, déjà là, c'est la pression sociale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand t'es en groupe et que t'as 5 personnes qui vont aller faire du shopping, toi tu restes chez toi ou. Les convictions, oui, et il y a toujours une limite à ça. Y a des gens qui sont un peu extrémistes, comme moi peut-être, mais bon, ça, mon cas n'est pas une généralité. Et ce que tu disais aussi, l'information vraiment ne suffit pas, parce qu'après, tu as d'autres mécanismes qui se mettent en place, typiquement le déni. Tu as des gens qui vont avoir l'information et qui vont mettre ça sous le tapis et qui ne vont pas changer. Hyper intéressant, j'ai demandé des témoignages, là, je suis en train de le préparer, de gens, le titre de l'article va s'appeler « Je me fous du changement climatique ». Et donc, les conditions, c'est « Je suis au courant du changement climatique, je connais très très bien les conséquences, mais je continue à vivre comme je veux ».
Et je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent très bien les conséquences et qui s'en foutent.
L'exemple que j'ai en tête, c'est un scientifique du climat.
D'accord.
Donc lui, en l'occurrence, il connaît mieux que personne le sujet, et bien mieux que moi. Lui, il continue à prendre ses vacances en Italie. Il part en avion, tu vois. Tu peux le faire en train, mais il part en avion, aller en Grèce, etc. Pendant que ça brûlait, tu vois, il était là et lui, oh, enfin, là, je vais trahir la personne, mais enfin, publiquement. Mais il continue en tout cas à prendre l'avion, etc. Alors qu'il sait, il est au courant. Mais moi, ce que ça me fait dire, en fait, je préfère, et j'adore, je ne vais pas aller jusque-là non plus, mais j'adore les personnes qui disent la vérité et qui, en fait, ne s'en cachent pas. On avance tellement plus vite quand on sait ça. Ce que ça veut dire, ce genre de message, c'est « Ok, il faut légiférer. » Ça veut dire qu'il faut changer le système et il faut changer la loi. Et on va plus vite. Plutôt qu'un bullshit à la Macron, dire non, on est vert, on fait quand même bien, ou Total ou BNP, dire on est les champions climat. Mais putain, vous êtes, c'est mytho.com. Vraiment, BNP, là, ils sont mis en examen sur leur devoir de vigilance. Vous continuez à financer les énergies fossiles, vous racontez n'importe quoi. Vous êtes les champions de cramer la planète. En France, en tout cas, vous êtes les pires. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. On irait 100 fois plus vite, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui permettrait que. Mais dire la vérité. Vraiment, si les entreprises, ça n'arrivera jamais hein, ce que je dis, mais si les entreprises et les politiques disaient, bon, la situation est critique, voilà ce qu'on a devant nous, réfléchissons tous ensemble, comment on va faire. Et franchement, il y a tellement de personnes intelligentes en France, et en français dans le monde, pardon, mais au moins pour le cas français, on trouvera des solutions. Et on les a, les solutions. Le pire, c'est qu'on a les solutions. Et on a l'argent en France. On n'a aucune excuse. Aucune excuse. Mais bon, il y a un gouvernement, il y a des gens qui veulent le pouvoir. L'opposition n'est pas forcément très très bonne et parfaite tout le temps. Hein. Donc vraiment, il faut. Voilà, il y a du changement, il y a du boulot sur la planche. Enfin, moi, je continue à bosser pour ça. Hein, mais bon, voilà.
Quelles sont les solutions ?
Les solutions sont politiques. Donc la première des choses, c'est vraiment de comprendre qu'il faut se battre politiquement pour obtenir la gain de cause. Les solutions, elles sont en fait, il faut prendre par secteur en France. Quels sont les secteurs ceux qui émettent le plus ? Typiquement, les transports en France, c'est plus de 30% des émissions. Donc on prend tous les transports, tous les secteurs en même temps. Mais le plus gros, les transports, la voiture. Ok, on fait quoi avec la voiture ? Il faut qu'on prenne les ordres de grandeur. Il y a environ 40 millions de voitures individuelles en France. Il faut que ce chiffre baisse. Et parmi les solutions, il faut passer les voitures, parce qu'on ne va pas passer à zéro voiture en 2050, ça n'arrivera jamais. Il faut passer des voitures thermiques aux voitures électriques. C'est sourcé. Scientifiquement, on est sûr, il n'y a pas de doute. La voiture électrique est le sujet où il y a le plus de désinformation en France. C'est pour ça que j'insiste. J'ai même fait un article. Donc, il y a un article clé sur Bon Pote sur la voiture électrique.
Qu'est-ce que tu n'as pas fait comme article ?
Écrit par Aurélien Bigot, qui est un chercheur sur le sujet. On y a passé beaucoup de temps. L'article est nickel. C'est pas moi qui l'ai écrit, donc je fais la pub d'Aurélien. Et moi, je me suis occupé de la désinformation sur le sujet parce qu'il y a énormément de désinformation sur la voiture électrique. Donc, vraiment, si vous voulez vous documenter sur ce sujet-là, allez lire l'article. Vraiment, il est béton. Donc on passe de la voiture, l'avion ensuite, on se rend compte que, ok, il faut aussi réduire, quelles sont les conséquences, il faut réduire. Et comment on fait ? C'est ce que je disais tout à l'heure, moi je veux pas qu'il y ait une casse sociale. Je veux que les gens se rendent compte qu'il y a besoin de changement, dans quelle mesure, et mettre les moyens pour que les gens puissent avoir un autre métier. Pas tout le monde, mais certaines personnes, au moins offrir la possibilité de. Donc soutenir et accompagner. Et je n'en peux plus des dirigeants, typiquement je pense à la PDG d'Air France qui dit « on va pas arrêter de tout au lendemain » ou Patrick Pouyanné qui est le patron de Total qui dit « on va pas arrêter le pétrole du jour au lendemain ». Mais personne n'a dit ça, Patrick, en fait. Personne.
Patrick, enfin.
Patoche. Personne n'a dit ça. L'objectif, c'est de changer progressivement. Mais lui, il ne fait pas en sorte que ça change. Il continue à investir dans le pétrole alors que littéralement tous les scientifiques de la Terre t'ont dit « non, il faut arrêter d'investir et d'ouvrir de nouveaux puits de pétrole et de gaz si on veut respecter l'accord de Paris ». Lui, il va jouer de la flûte dans les médias, etc. J'adorerais encore une fois que les journalistes le reprennent, mais c'est pas le cas. Voilà, on prend secteur par secteur. L'alimentation, c'est environ 20% des émissions en France. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Baisser la consommation de viande. Ok, donc comment on fait ? Comment on accompagne les éleveurs ? Il ne va pas rester zéro éleveur en France. Comment on accompagne ? Et comment on accompagne les gens, l'offre notamment, pour qu'il y ait plus de propositions végétariennes. À Paris, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup de restos végétariens, il y a beaucoup à la carte. Voilà, mais moi, j'en peux plus d'arriver dans un resto et de me dire il y a un repas, il y a un truc végé et il y a 39 offres avec viande et poisson. En fait, ce n'est pas soutenable. Il faudrait être écolo par défaut. C'est ça en gros, la logique. Et encore une fois, tu prends des solutions sur d'autres secteurs.
Pour rebondir sur l'alimentation, parce que j'ai vu que c'était ton dernier article et que j'avais écouté un podcast sur le sujet, je trouve ça scandaleux qu'on ne puisse plus dire jambon végétal.
Oui, mais non, mais... Oui. Non, mais ça, c'est encore le gouvernement qui fait...
Enfin, en fait, les gars, tu veux qu'on l'appelle comment ? Enfin, évidemment que si on l'appelle pas jambon végétal, ça aura pas du tout la même désirabilité. J'ai laissé le jambon végétal vivre sa vie. Enfin...
Alors, c'est le gouvernement qui fait semblant d'agir, qui prend un faux problème, qui crée ça et qui fait semblant d'agir. Mais vraiment, c'est du bullshit. Et en plus, c'est que pour les, enfin, pour les marques françaises, et ça concernera pas les autres marques. Donc, en fait, t'es en train de ruiner les efforts des entrepreneurs français qui m'ont écrit en privé parce que j'ai communiqué sur LinkedIn, ça a un peu pris. Et donc, ils m'ont écrit ensuite en privé. Et en plus, c'est n'importe quoi. En gros, tu veux légiférer, Gabriel Attal, qui est Premier ministre, tu vas faire quoi avec le lait démaquillant, par exemple ? Qu'est-ce que tu vas faire avec le lait démaquillant ? Tu veux faire un décret là-dessus aussi ?
Ouais. Ouais,
voilà. Ils sont à un niveau... ce gouvernement, c'est le Gorafi tous les jours. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut avoir de l'humour quand tu suis ça, sinon tu deviens fou, en gros.
Quelles sont tes faiblesses, Thomas ? Parce que de l'extérieur, tu sembles très parfait.
Oh.
Non mais c'est, tu as ta réponse à tout.
C'est peut-être la chose la plus fausse que tu aies pu dire depuis le début.
Non mais tu vois, on sent que tu travailles tes sujets.
Ah mais okay.
Non mais tu vois, t'es calé, que t'es dans une forme quand même de contrôle. Et donc je me dis, doit y avoir quand même. On a tous une vulnérabilité.
Ça me fait énormément sourire. Je pense que j'aurais dû laisser en interview mes meilleurs amis qui m'auraient défoncé pendant 10 minutes de suite. Non, j'ai énormément de défauts. La seule chose, là, tu parlais des sujets, c'est que en gros, quand je connais un peu le sujet. Je discute du sujet, etc. Quand je ne connais pas, je me tais. Et dans mon monde idéal, tout le monde ferait ça et poserait des questions. Ça arrive de dire des conneries, mais il y a des gens qui donnent leur opinion comme si c'était, juste taisez-vous. Il y a des gens dont c'est le métier qui parle de sujets, qui travaillent sur un sujet depuis 15 ans, sur la démocratie, sur les sens sociaux, sur le féminisme, sur le climat, etc. Taisez-vous, écoutez. Ensuite, aller challenger, demander pourquoi, comment t'es arrivé à cette conclusion, etc. Non, mais pour les défauts, j'en ai. Enfin, tu as 3 heures devant toi où j'ai 150 000 défauts. Je suis pas très patient, j'apprends à être patient. J'aimais la compétition, j'essaye d'en revenir. Tu m'as demandé, je t'ai pas répondu. Je vais en profiter. Les termes, peut-être, ou des choses dont on pouvait parler dans ce podcast. Et il y a un truc qui me définit, je crois, c'est le refus de parvenir. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Le refus de
parvenir. Le refus de parvenir.
Non,
j'ai appris le mot du refus de parvenir dans un livre qui s'appelle plutôt Couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel-Darleux, qui est un tout petit livre que je pourrais t'offrir, qui est vraiment très bien écrit. Et en fait, elle part du principe de qu'est-ce que ça veut dire le refus de parvenir ? C'est pouvoir réussir, mais sans écraser les autres. Et en fait, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est vraiment un leitmotiv de vie. Je trouve ça vraiment, et ça pourrait un peu me définir, et ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. On peut réussir. Là, moi, ma réussite, ce serait d'arrêter le changement climatique ou que l'extrême droite soit un sujet du passé, tu vois, en France ou voilà. Mais on est obligé de faire ça collectivement. Et en fait, dans le livre, elle parle et elle donne des exemples. Et typiquement, il y a un navigateur qui arrive et qui va gagner une course, qui arrive devant la ligne d'arrivée. Et en fait, le mec décide de partir à droite et il dit bon allez, cassez-vous, je m'en fous de votre compétition, tu vois. Il faut que tu lises le livre.
Okay,
et que
ça tout m'intrigue. Et le nom est génial, le titre
est génial. J'ai réussi à le sortir en une fois, j'ai mis 6 mois à peu près à maîtriser, parce qu'à chaque fois je faisais une faute, j'étais là plutôt couler, bon bref,
ouais.
Là ça va, je crois que j'ai à peu près maîtrisé. Donc ouais, le refus de parvenir, je trouve ça très bien, et ça ferait du bien que tout le monde réfléchisse un peu à c'est quoi la réussite. On en a parlé, je viens de me rappeler, c'est quoi réussir en fait, et à quel prix en gros. Pour toi et pour les autres, est-ce que tu as écrasé les autres pour réussir ? Est-ce que tu as écrasé d'autres personnes à l'autre bout du monde ? Parce que si tu fais, donc toi, c'est pas ton cas avec ta marque, et j'ai eu confirmation que c'était vraiment que c'était bien, donc je suis content. Bref, c'est un compliment indirect. Enfin, tu vois, aller faire des partenariats typiquement avec Chine ou tu vois, avec de la fast fashion, etc. À quel prix ? Tu réussis, tu es en train de gagner des dizaines de milliers d'euros, mais à quel prix ? C'est quoi les conséquences pour ça ? Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs et influenceuses qui ont refusé des contrats de dizaines de milliers d'euros. Tu as reçu Swan la semaine dernière, je sais que ça a été son cas. Voilà, et je pense à Juliette Katz, etc. Elles ont dit, elles ont refusé des contrats à dizaines de milliers d'euros. Bon, c'est de la réussite. Enfin, tout le monde a envie d'avoir de l'argent, tu vois, mais à quel prix ? Et l'objectif, et j'adorerais que tout le monde se pose la question de dire, ok, je vais réussir, mais c'est quoi ? C'est quoi les conséquences derrière ?
C'est quand la dernière fois que tu as pleuré ?
Oh, ce, à midi.
Ah ouais ?
À midi, en fait, je reviens du voyage, donc désolé, j'en parle, ça va être très drôle de réécouter derrière, mais des aurores boréales, et en fait, je suis émotif. Rien que dans, en fait, tout le temps, là, je suis dans une bulle d'émotion parce que le voyage était tellement extraordinaire que j'arrête pas d'avoir les larmes aux yeux dès que j'y repense, dès que je revois des images, dès que je pense aux personnes avec qui je suis parti. Et j'ai vu une des deux personnes à midi. Mmh. Et voilà, elle m'a annoncé une bonne nouvelle. Ça a suffi à table que mes larmes montent. Donc voilà, donc j'ai pas trop de problèmes à pleurer de joie. Je pleure très rarement de tristesse. Je pleure souvent de joie. De rire, et voilà.
Qu'est-ce qui, dans ce voyage, était si beau que rien que d'y repenser, ça te donne les larmes aux yeux ?
C'était, on est parti 15 jours, il n'y a pas un jour que je jetterais, enfin, matin, midi, soir, nuit, tout était parfait, de A à Z. Je pense que les deux personnes, enfin, c'est pas un secret parce qu'elles sont sur les réseaux, Victoire Sato, qui est la fondatrice de The Good Goods, qui est exceptionnelle, et Charlotte Lemay, qui est exceptionnelle.
Je pense on
les embrasse et ça a beaucoup joué à rendre ce voyage exceptionnel. Mais en fait, j'ai envie de dire, je recommande à tout le monde d'aller voir des aurores boréales. Ce truc, enfin, moi j'en rêvais, mais ça m'a procuré, j'ai toujours pas le mot pour expliquer ce que ça m'a procuré. C'est un niveau de joie incroyable, donc il faut aller voir des aurores boréales.
J'ai trois dernières questions pour toi. Si tu avais une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, je vais répondre en deux temps, je vais tricher. Je vais faire un peu d'autopromo. Et... Alors, le livre qui m'a le plus touché sur ces trois dernières années, c'est « Où va l'argent des pauvres ?» de Denis Colombi, qui est sociologue. Et moi, ça m'a mis une bonne claque parce que j'ai pas du tout grandi. J'ai grandi un peu dans un univers de famille de droite. Et ça m'a mis une belle claque sur beaucoup de préjugés que j'avais. Typiquement, pourquoi les gens ou des SDF, ils vont prendre leur argent et s'acheter des cigarettes et de l'alcool. Tu pourrais avoir le réflexe de dire « vous avez pas mieux à faire », etc. En fait, parce qu'il y a des conditions et c'est la seule chose qui leur permet d'oublier, etc. au quotidien. Il prend l'exemple des courses au Nutella, le début des soldes, les gens qui se jettent sous les grilles pour aller choper les réductions de Nutella, etc. Évidemment que ça te ou les soldes chez Zara. Évidemment que ça peut paraître ridicule, mais il y a des raisons derrière. Il y a des raisons sociologiques et à chaque fois il explique ça. Et waouh, c'est son livre est vraiment vraiment. Enfin, ça m'a mis une énorme claque. Et j'adore en fait prendre des quand je découvre des trucs comme ça. Ça m'arrive dans la littérature vieille, Lou Andrea Salomé ou Stéphane Zweig ou d'autres. Ça m'arrive. Mmh. Mais là, c'est un livre récent et d'actualité. Et vraiment, c'est il faut le lire. Et concernant les podcasts et les lectures, etc. Sur Bon Pote, au-delà des articles, comme les gens parfois n'aiment pas lire ou n'ont pas le temps, etc. Il y a une liste de podcasts, de livres, de films à voir, de comptes Instagram à suivre et de chaînes YouTube à suivre sur le sujet du climat, de l'environnement, etc. Voilà, si vous avez des dizaines ou voire des centaines d'heures à passer pour apprendre, pour rire, pour pleurer, etc. Y a tout sur le site.
Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait ?
Emmanuel Macron. Et j'adorerais que tu puisses le cuisiner et ne rien lâcher.
All right. Je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Ça veut dire ne pas avoir de regrets, ça veut dire ne pas perdre de temps, parce que la vie, on n'en a qu'une, enfin je vais dire des banalités.com, là ça va être assez tragique, mais on a qu'une vie, je l'ai compris il y a 8 ans, il y a eu certains événements à Paris où j'ai failli mourir, et j'ai compris depuis qu'on n'a qu'une vie, ça a déclenché chez moi et l'envie de faire autre chose, d'avoir un autre job, typiquement.
C'était les attentats,
oui, j'en parle jamais, mais voilà. Donc en fait, on n'a qu'une vie, et en fait, je dis souvent, ça sert à rien de se plaindre, soit on arrête de se plaindre, soit on trouve les moyens d'arrêter de se plaindre, et je marche un peu comme ça.
Très bien.
Donc voilà, si vous êtes dans une situation inconfortable, n'attendez pas 10, 20 ans, enfin, je pense à des couples, même au boulot, si vous n'êtes pas bien, si vous avez les moyens de changer, n'attendez pas, donnez-vous les moyens, et voilà.
Je suis obligée de finir sur une touche d'ironie, mais... Faites comme son meilleur ami, mariez-vous trois fois.
C'est ça.
Merci Thomas. Écoute, c'était hyper chouette. J'avais envie, tu vois, à la fois qu'on aborde évidemment le sujet du climat, mais j'avais pas envie que tu dises que tu dis déjà partout et ce qui est déjà très bien référencé sur Bon Pote. Donc je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre entre un peu de nouveauté et quand même voilà, l'essentiel de ta pensée pour peut-être celles et ceux qui ne la connaissaient pas. Donc maintenant, pour toutes les personnes qui sont encore là et qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Alors sur le site Bon Pote, évidemment, parce que c'est là qu'il y a le contenu. Sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, il y a Bon Pote, Twitter, LinkedIn, Instagram. Je suis pas trop sur TikTok, mais je suis sur les autres. Pas encore.
La vidéo va arriver.
Peut-être que je vais y venir. Mais en fait, sur Twitter, c'est plus pour m'occuper des politiques, etc. Sur Instagram, je suis beaucoup plus perso, d'ailleurs. Je poste plus de choses perso. Ça va de la photo de chat à... voilà,
à nous, en backstage, sur une power.
Exactement. Donc, il y a des photos un peu... voilà, je montre un peu plus ma tête, ce que je fais rarement. Voilà.
Okay.
Sur tous les réseaux.
Très bien. Et je mettrai aussi une note pour, vers ton livre, yes, qui est quand même aussi, merci, une très bonne source d'informations pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Merci beaucoup, Thomas.
Merci,
et
merci
pour ce que tu fais.
Merci.
Un grand merci à chacun et chacune d'entre vous d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, on adore voir vos retours en story, alors n'hésitez pas à nous taguer @bonpote et @mybetterself et envoyer un petit message à Thomas si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 350 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes vraiment extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.